Bonjour. Attendez, hop là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça va? J'arrive pile à temps. Et oui. Et oui, et oui, et oui. On vient de commencer. Bonjour, bienvenue. À mes souhaits. Merci. Pardon. Pardon, pardon. On va suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement qui va commencer à 15h à l'Assemblée nationale. Et on va voir un peu quels sont les sujets de l'actu. Vous allez m'aider à essayer de trouver quels sont les sujets du moment. Bienvenue à vous en tout cas. Merci de nous rejoindre. À tes souhaits, bonjour. Merci. Ah, je suis fatigué. C'est Charles qui ouvre les questions aujourd'hui. C'est... Non. Non, c'est Sébastien Jumel. Non? Je sais pas, j'en sais rien. Combien de temps aujourd'hui déjà? Alors c'est la nouvelle formation, c'est le nouveau format des questions au gouvernement, donc ça ne va durer que 1h15 les questions aujourd'hui. Et demain à 14h, on aura à nouveau une séance qui va durer 45 minutes. Je suis passé sur Twitter, c'était maire, maire, maire. Bah oui, c'est le congrès des maires de France. C'est le congrès des maires de France qui commence en ce moment. Pour l'extrême droite, le gamin mort en boîte après une attaque groupée. Pour la gauche, le papy qui a foutu un coup de cutter en tenant des propos racistes. D'accord. Rugbyman assassiné et tentative d'assassinat du jardinier. D'accord, donc il y a des faits divers en ce moment. Est-ce que ça va donner des questions? Écoute, moi j'en sais rien. Je sais qu'il y a le congrès des maires de France qui commence, donc c'est peut-être l'occasion de poser une question sur les élus locaux. C'est quoi le congrès des maires? Il y a une association qui s'appelle l'Association des maires de France, l'AMF, qui est présidée par David Lisnard, qui se réunit chaque année et qui organise un congrès. Donc c'est un peu l'occasion de faire le point sur le rôle et les difficultés pour les maires en France. Pardon. Aucun rapport avec les mamans. Et non, absolument aucun rapport avec les mamans. Ce sont bien les maires de toutes nos communes qui se réunissent chaque année. Il y a un salon des maires. Est-ce que ça a un rapport avec le salon des maires? C'est organisé au même moment, ouais. Les QAG changent de format en 2 fois 1 heure. Est-ce que tu vas changer et suivre le rythme ou pas? Ouais, je vais suivre le rythme, ouais. Faire le point sur les dernières innovations en matière de chicane et autres dodanes. Bah tu déconnes, mais le Salon des maires de France, il y a une partie, effectivement, salon, quoi. Sciences et techniques, ça discute autour des dernières innovations, machin, machin. Pourquoi ils ont changé le format pour dynamiser un peu les questions au gouvernement et pour pouvoir poser des questions après le Conseil des ministres qui se tient le mercredi matin? Et ils avaient déjà changé il y a 3 ans. Donc là, c'est un peu un retour à la normale. D'ailleurs, tu préfères ou pas? Moi, je préfère, ouais, je pense que c'est mieux de faire des séances courtes, parce que la deuxième heure, d'habitude, on se fait un peu plus chier que la première. Et je pense que c'est bien de poser des questions après le Conseil des ministres plutôt qu'avant, quoi. Si on veut poser des questions au gouvernement sur son... Si on posait des questions au gouvernement sur son action, c'est mieux de lui poser des questions après le moment où il a pris les décisions en Conseil des ministres. Nouveau radar pédagogique pour les vélos et les trottinettes. Ouais, c'est vrai que ça existe ça maintenant. Il pouvait poser des questions sur le Conseil des ministres de la semaine d'avant. Ouais, voilà. Donc t'as compris quoi. T'as compris pourquoi ça servait à rien. Donc ouais, non, on va suivre tout ça. Depuis le temps que je te regarde sur YouTube, me voilà enfin sur Twitch pour suivre un de tes lives. Salut pour un live, surtout pour un live politique. Eh bien, bienvenue à toi, Nolan. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci JX pour ton resub. Merci Yanitosk pour ton resub. Merci Ichidev pour ton resub également. Merci Avast. Merci Vojtek. Merci Léo Mortis. Merci bien. Merci à vous. Tiens, je vais pouvoir remettre ça, tiens. Hop. Non, je vais le retravailler, ce truc-là, il est moche. Hello, je voulais savoir, tu as fait quoi comme étude? J'ai fait des études de droit. Si ça t'intéresse, tu peux faire point d'exclamation FAQ. Tu auras une FAQ dans laquelle je réponds à toutes vos questions. Donc ouais, donc congrès des maires de France, donc peut-être des questions sur les élus locaux, peut-être des questions sur la loi immigration maintenant qu'elle commence à être débattue à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité? Tu cherches pas des gens pour Backseat en régie? Non. Non, non. Merci Glawal, merci Roctali pour vos resubs. Le PLOAA trop tôt, c'est quoi le PLOAA? Le projet de loi? OAA, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la suppression de l'AME? Bah alors, peut-être qu'ils vont poser des questions sur l'immigration, mais comme ils sont justement en train de discuter du texte sur l'immigration, peut-être que ça vaut pas la peine d'en parler pendant la séance de questions d'actualité, vu qu'ils ont toutes les autres séances de la semaine pour en parler. Mais je sais pas, peut-être. Merci Rachel Even qui offre un sub, merci beaucoup. C'est très généreux, merci. Sauf pour la couverture médiatique. Ouais, effectivement, s'il y a des députés qui veulent faire de la reprise, ils peuvent poser une question sur l'immigration, mais a priori, vu que les députés sont déjà le nez dessus en permanence cette semaine, peut-être qu'ils vont justement pas poser de questions sur le sujet, quoi. Sur la ministre droguée, non, t'as mal lu, y a pas de ministre qui a été droguée, c'était une députée. Grève des intermittents du spectacle. Ouais, peut-être sur le régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle. C'est quand la prochaine émission de Backseat? C'est ce jeudi. Ce jeudi en partenariat avec France Digital. Pour quand l'élimination de l'allocataire principal et l'allocataire secondaire en cas de parents séparés en garde alternée? J'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est au menu de la commission des affaires sociales. Merci Etlos. Merci le syndicat pour vos resubs. Est-ce qu'on a les noms des invités de ce jeudi ou ça arrivera demain? Ça arrivera plus tard. Des gens de gauche à Baxit un peu? Je crois que Baxit c'était trop à gauche, faudrait savoir. France Digitale, France Numérique, tu veux dire? Eh non, ça s'appelle bien France Digitale, la France du bout du doigt. Le programme arrive d'ici 18h. Voilà, ce sera publié d'ici 18h. Merci Will Pietrak. Pourtant, Rissable. Wesh, le sang de la veine. Salut. Est-ce que vous avez vu que depuis la semaine dernière, le gouvernement a fait demi-tour sur les tickets restaurants? Oui, mais ça, on l'avait dit sur Brexit, le gouvernement a prolongé la possibilité d'acheter des denrées alimentaires avec les tickets restaurants. Merci Phoenixos, merci Asgard, merci Chori. On va encore avoir des questions apaisées aujourd'hui. Écoute, on verra bien. En tout cas, c'est la nouvelle formule des questions au gouvernement. 1h15 de séance le mardi, 45 minutes de séance le mercredi. À suivre, les deux séances à suivre sur ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais checker? Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Y aura peut-être des questions sur la lutte contre l'inflation. Vraie question, vu la gueule des types élus dans certains pays. Oula, je continue même pas la lecture de ta question. Bien le bonjour, gardien de Phénix des Bois. Est-ce que tu as parlé du livret A? Non, je n'ai pas parlé du livret A. Pourquoi il a changé? Je n'arrive, je me prépare une dépêche. Je me dépêche. Ouais, dépêche-toi. On a changé de taux du livret A, ça a été relevé? Pour lutter contre l'inflation? Je sais pas. Ou alors à l'inverse, pour inciter la consommation? Peut-être des questions sur l'immigration et au Rassemblement national. Encore une fois, vu que la loi immigration est en train d'être discutée actuellement à l'Assemblée nationale, peut-être qu'ils vont pas poser de questions sur le sujet, parce que justement, ils sont en train de bosser dessus. Ou alors à l'inverse, t'as raison, ça peut être aussi l'occasion de parler d'immigration. Est-ce que tu penses que ça va parler démantèlement du NPA? C'est pas en projet, donc non, je vois pas pourquoi on en parlerait. Non, ils veulent financer l'armement avec le livret A. Ah bon? L'armement? Je croyais que le livret A, ça servait à fonctionner, à financer le logement social. C'est bizarre quand même. Mais c'est dans le cadre d'un grand emprunt alors? Est-ce que tu comptes streamer les débats sur cette loi immigration? Non. Au fait, ça en est où de la dissolution de Civitas? Je sais pas, ma connaissance, c'est encore en cours, ça n'a pas encore été prononcé. Mais comme je vous l'expliquais hier, pour dissoudre une association, il faut avoir de solides arguments juridiques parce que sinon le Conseil d'État peut annuler la décision de dissolution, comme par exemple ils l'ont fait pour les soulèvements de la Terre. C'est quoi la différence entre un directeur de cabinet et un chef de cabinet? Le directeur de cabinet, c'est l'alter ego de l'élu, qui s'occupe de prendre les décisions en son absence et qui coordonne l'action de l'ensemble du cabinet. Le chef de cabinet, il s'occupe notamment de l'agenda. De l'agenda de l'élu. Il tient l'agenda, comme on dit. Il a rarement, ça peut arriver, mais il a rarement des dossiers en propre. C'est plutôt les conseillers et le directeur de cabinet qui s'occupent des dossiers. Ils avaient dissous des groupuscules d'extrême droite après l'affaire Méric et les identitaires aussi, ça devait pas poser trop de problèmes. Civitas. Bah encore faut-il démontrer que Civitas fait des troubles à l'ordre public et pour ça il faut avoir des dossiers. Enfin, il faut venir avec un dossier solide. C'est vrai que la jeunesse identitaire c'était plus facile à démontrer. Civitas, peut-être que c'est plus compliqué à démontrer. Donc, je ne sais pas s'ils vont en parler aujourd'hui pendant la séance de questions au gouvernement. Que penses-tu de la position française face à la réponse d'armée d'Israël sur Gaza, équilibrée, lâche ou courageuse? J'en sais rien, mais je ne porte pas de jugement sur la réponse de la France. Pour le coup, sa position a été constante. Emmanuel Macron a plus fortement appuyé pour un cessez-le-feu récemment. Comment va le moral aujourd'hui? En ce moment, je suis pas au top de ma forme. Hein. D'une manière générale, j'ai une santé mentale assez fragile. Et là, en ce moment, c'est particulièrement difficile. Mais ça va. Moi, je suis chaud pour les questions au gouvernement. J'ai hâte que ça commence. Oh putain, la fatigue. Putain. En raison de l'inflation, les Restos du Cœur se retrouvent face à un paradoxe, celui d'abaisser le niveau des revenus qui donne droit à l'aide alimentaire tout en étant contraint de refuser de nouveaux demandeurs. Quelle est la position de l'État sur cette pauvreté ambiante? Eh bien, c'est une très bonne question. La question de la mesure de l'inflation, les restos du cœur, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas pouvoir faire de collecte alimentaire à cause de l'inflation en partie. Enfin, pas de collecte, pardon, mais de distribution alimentaire. Comment va Lopotisha? Est-ce qu'elle s'est remise de son apparition en stream? Non. Elle est retournée se cacher, elle n'a pas bougé le reste de la journée. C'est le seul moment de la journée où elle a bougé. Et vous étiez là pour le voir. Si ça, c'est pas beau, ça. Tu penses qu'il y aura des questions sur les 2000 enfants scolarisés qui dorment à la rue? Oui, bien sûr, les enfants à la rue, ça fait partie des sujets sur lesquels on pourra avoir des questions au gouvernement. Je crois qu'il y a eu un rapport d'association qui a été rendu récemment sur les enfants à la rue. Attends, mais on n'a pas déjà eu une question au gouvernement là-dessus la semaine dernière? Je crois, hein. Je crois qu'il y a déjà eu une question au gouvernement. Il va y avoir aussi. Attends, non, je me souviens plus. Oui, non, si, c'est ça, c'était le coup des tickets resto. Ça, on en avait déjà parlé. Est-ce que tu aimerais essayer de devenir président? Non. J'arrive et je vois plein de cœurs, il se passe quoi? Il se passe rien, bienvenue à toi. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi et bonjour tout le monde. On va suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à partir de 15h. Et là, on est en train de discuter un peu pour voir quels sont les sujets qui sont susceptibles de tomber pendant l'examen. Question sur notre politique de dissuasion nucléaire suite à l'essai réussi d'un nouveau missile balistique. C'est la France qui a fait un essai d'un nouveau missile balistique? Et sur le logiciel de reconnaissance faciale apparemment utilisé par les forces de l'ordre. Ça, oui, t'as raison. Ça c'est un article. C'est quoi? C'est Mediapart ou c'est Street Press? Je sais plus. Il y a eu des révélations de journalistes qui ont enquêté et qui ont démontré que la France utilisait un logiciel espion de reconnaissance faciale illégalement. Ça peut être un très très bon sujet de question au gouvernement. Donc ça a été dans les Landes. Dans les Landes, il y a eu un missile qui a été tiré, c'était un essai, d'accord. Dis Jean, en première impression, ta pipette à nicotine, ça le fait. Ça, là? Bah, ouais, ça. Ouais, mais c'est juste pour le geste, en fait. À l'intérieur, c'est un substitut nicotinique qui se vaporise. Tu as des patchs? Ouais, non, mais j'ai tout, hein. J'ai des patchs, j'ai des gommes, j'ai des pastilles. J'ai absolument tout. Les substituts nicotiniques. Et on va voir ce qui marche le mieux. Pour l'instant, ça va. Est-ce que tu sais combien de milligrammes de nicotine ça rapporte? Ça m'intéresse. Non, je sais pas. Quels sont les contre-pouvoirs pour l'utilisation de technologies illégales en France? Bah, les pouvoirs publics sont soumis à la justice, sont soumis au droit. On appelle ça vivre dans un état de droit. C'est quand les pouvoirs publics peuvent être contestés en justice et que la justice peut empêcher les pouvoirs publics, peut punir les pouvoirs publics, etc. Par exemple, la dissolution des soulèvements de la Terre a été annulée par la justice. Preuve que le gouvernement ne peut pas faire absolument ce qu'il veut. Est-ce que les médias parlent des manifestations en Espagne contre l'amnistie des indépendantistes catalans? Ben, je sais pas, demande aux médias. Je suis resté accroché au substitut nicotinique pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je saute le pas et me rende compte que je n'en avais plus du tout besoin. Eh ben écoute, on verra bien. D'ailleurs, le ministre de la Justice s'est terminé son affaire. Non, Éric Dupond-Moretti est toujours devant la Cour de justice de la République à l'heure qu'il est. Et il continue à s'expliquer sur les soupçons de prise illégale d'intérêt. Ça a été annulé, c'est récent. Les soulèvements de la Terre, oui, c'était il y a 15 jours. Je crois, 10-15 jours. À quel point la justice peut être impactée par des modifications de loi? C'est-à-dire, c'est quoi ta question? La justice, elle applique la loi, donc quand la loi change, la justice applique la nouvelle loi. Il y a aussi les affaires de harcèlement sexuel Dupond-Moretti maintenant. Ah bon? Mais pas dans le cadre de ses fonctions. Enfin, en tout cas, c'est pas devant la Cour de justice de la République. Il n'a pas été renvoyé devant la justice par le parquet pour ça. Le procès est terminé, mais on est surtout en attente du délibéré. Ah oui, non, t'as raison, le procès est terminé, oui, on est en attente du délibéré. On est en attente du délibéré, ouais. C'est vrai qu'il y a eu le réquisitoire. Il y a eu le réquisitoire du procureur général. Donc le procès est terminé. Bon, bah on attend la décision, hein. Ça peut mettre du temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu une super réunion des présidents de parti avec Macron ce week-end? Peut-être une question dessus. Bah oui, tu fais référence aux rencontres de Saint-Denis qui se sont tenues vendredi. On en a déjà parlé hier. Les rencontres de Saint-Denis, donc le gouvernement, enfin Emmanuel Macron qui ne fera pas de référendum sur l'immigration. Il a constaté qu'il n'existait pas de majorité. Donc il laisse tomber cette idée-là. Ensuite, ils ont parlé décentralisation puisqu'il y a une mission qui a été confiée à Éric Woerth, l'ancien président de la commission des finances. Donc, je suis jamais venu pour une séance de questions d'actu au gouvernement. Ça se passe comment, SVP? Et bah, reste avec nous, tu verras. À partir de 15h, les députés se succèdent au micro pour poser une question en 2 minutes au gouvernement et le gouvernement répond. Ça peut être différents ministres qui répondent et qui répondent à la question en défendant l'action du gouvernement. Pourquoi dit-on que la France est un régime présidentiel alors qu'il y a un responsable du gouvernement devant le Parlement et dissolution qui sont des caractéristiques normalement de régime parlementaire? Alors la dissolution n'est pas une caractéristique de régime parlementaire classique. En revanche, personne ne dit que la France est un régime présidentiel puisqu'on définit la France comme un régime mixte, régime présidentiel et parlementaire. Là, il abandonne parce qu'il n'a pas de majorité, la blague. Oui, exactement. Il laisse tomber l'idée du référendum, puisque de toute façon, pour modifier l'article 11 de la Constitution, il y a besoin des 3/5 du Congrès. Emmanuel Macron, il a fait ses calculs et il a bien vu qu'il n'y arriverait pas. Est-ce que les questions sont connues à l'avance? Non, les députés ne sont pas obligés de donner leurs questions au gouvernement avant le début de la séance. Ils peuvent le faire s'ils en ont envie, s'ils veulent avoir une réponse précise. Et quoi qu'il en soit, le gouvernement a la possibilité de préparer des réponses sur les sujets d'actualité. C'est pour ça que les ministres, ils ont toujours des fiches avec des chiffres, avec des infos, des données, des datas, etc. La France a un régime en même temps présidentiel et parlementaire, exactement. Est-ce que tu peux refaire un point sur les nouveaux aux questions d'actualité qui commencent aujourd'hui STP? Non, non, la seule chose qui change, c'est que la séance qu'on va regarder ensemble là, elle va être plus courte que d'habitude. Au lieu de durer 2 heures, elle va durer 1h15. Et les 45 minutes restantes, ça aura lieu demain, après le Conseil des ministres, à partir de 14h. Voilà, c'est tout, c'est la seule différence. Salut Jean, petite question concernant les intermittents du spectacle. Est-ce qu'il y a eu des changements sur le statut ou pas? Je ne sais pas. Je viens d'arriver, t'as l'air fatigué, ça va? Ouais, je suis un peu fatigué en ce moment, mais ça va, ouais. J'imagine bien certains députés rebondir sur l'élection du président argentin pour faire des allusions. Peut-être que l'élection du président argentin sera évoquée, mais bon, les questions au gouvernement, encore une fois, c'est des questions que les députés posent au gouvernement sur des, a priori, sur des domaines de compétence du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement français peut faire sur l'élection d'un président argentin? Est-ce que les députés doivent forcément faire des questions d'actualité ou bien ils peuvent prendre des questions d'il y a 6 mois? Ils font ce qu'ils veulent. Ils font absolument ce qu'ils veulent. A priori, ils parlent plutôt de l'actualité politique, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler d'un dossier en particulier qui les concerne. Ils peuvent parler de leur circonscription parce qu'il y a un problème dans leur circonscription. C'est par exemple ce que vous entendez quand il y a des intempéries, quand il y a des faits divers, quand il y a des trucs qui se passent dans des circonscriptions. Là, bah, récemment, il y a eu des intempéries avec la tempête en Bretagne. Il y a eu des intempéries avec des inondations dans le nord. Le Nord et le Pas-de-Calais, bah là vous avez eu des députés du Nord et du Pas-de-Calais qui ont posé des questions sur que compte faire le gouvernement pour aider à l'indemnisation des victimes des inondations. Merci Oumaguma pour ton resub, merci à toi. Le changement d'heure, c'est un fait divers. D'ailleurs, c'est quand le changement d'heure, on le sait ou pas? Ou on laisse les choses se faire automatiquement? Comme d'habitude, c'est le micro-ondes qui est en avance ou en retard. C'est déjà fait. C'est passé. Oui, donc voilà. C'est déjà passé. Bon, bah c'est bon alors. Pas besoin de s'emmerder. Il devrait parler du logiciel a priori acheté par les forces de police qui serait illégal. C'est possible qu'il y ait une question au gouvernement sur ce logiciel policier de reconnaissance faciale illégal, selon des révélations de journalistes. Avec les smartphones et les smartwatches, on voit plus le changement. Mais oui, non, mais c'est ça, moi je me rends même plus compte du changement du passage à l'heure d'hiver, à l'heure d'été. Tant mieux, hein. Comment est-ce qu'on décide quels députés peuvent parler? Est-ce qu'il y a un quota par parti et chaque parti choisit ses orateurs? C'est exactement ça. Il y a un quota de questions par groupe. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de parti à l'Assemblée nationale, il n'y a que des groupes. Chaque groupe a un quota de questions à poser et chaque groupe se démerde en interne pour désigner les orateurs qui vont poser des questions au nom du groupe. GDR va poser une question sur les maires. Alors GDR, c'est la gauche démocrate et républicaine, c'est le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Ils vont poser une question sur les maires, oui, c'est possible. Excusez-moi, mais ça fonctionne comment? Les groupes, t'inquiète, t'excuses pas, il n'y a pas de problème. Les groupes politiques, ce sont des associations de députés. Les députés se réunissent en groupe de députés qui pensent à peu près la même chose ensemble. Donc il y a un groupe insoumis, il y a un groupe LFI, il y a un groupe communiste, il y a un groupe socialiste, il y a un groupe Renaissance, il y a un groupe Modem, il y a un groupe Horizon, il y a un groupe Les Républicains, il y a un groupe Rassemblement National. Et donc les députés sont libres d'adhérer à un groupe dont ils se sentent proches pour faire partie de ce groupe et peser ensemble avec le reste du groupe. Le président n'a jamais assisté à ces questions, il n'a pas le droit. Non, le président n'assiste pas aux questions au gouvernement, il peut les regarder et les suivre sur ma chaîne Twitch, il a le droit de le faire, d'ailleurs il le fait, hein, je pense. Et il n'a pas le droit, non, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République n'a pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Principe de séparation des pouvoirs. Ces sessions ont lieu à quelle fréquence? Tous les mardis et tous les mercredis. À suivre sur ma chaîne Twitch, soyez les bienvenus. C'est quoi les principaux groupes? Les plus gros groupes, le plus gros groupe, c'est Renaissance. Ils ont la majorité relative. Le deuxième plus gros groupe, je crois que c'est le Rassemblement National. Le troisième plus gros groupe, c'est la France Insoumise. Et voilà. Est-ce que des députés peuvent créer des nouveaux groupes s'ils ne se sentent pas représentés par les groupes existants? Oui, c'est déjà arrivé. On avait eu un groupe qui s'appelait Écologie, Démocratie et Solidarité, qui avait été créé notamment par des marcheurs qui avaient quitté La République En Marche et qui s'étaient alliés avec des écolos et des socialistes. Séparation des pouvoirs, mais les ministres, ils ont des bancs. Mais c'est normal, les ministres, ils viennent pour se faire interroger par les représentants du peuple. Ce n'est pas contraire à la séparation des pouvoirs, au contraire. C'est bien le pouvoir législatif qui est au-dessus du pouvoir exécutif. NUPES n'est pas un groupe. Non, NUPES n'est pas un groupe. Il y a plusieurs groupes des différents partis qui composent la NUPES. Est-ce que les groupes peuvent refuser des députés? Oui, bien sûr. Les groupes sont libres de refuser l'adhésion d'un député. Les groupes peuvent exclure un député. Les groupes peuvent punir un député. Par exemple, on en a parlé sur Baxit, Raquel Garrido, qui a été punie par son groupe et qui a été mise au ban pendant 4 mois. Ça marche comment? Les apparentés, d'ailleurs, ils ont quel statut? C'est une bonne question. Les apparentés, ils sont rattachés au groupe, mais ils ne payent pas. Je crois qu'ils ne payent pas les cotisations d'élus pour le parti. Je sais plus comment ça fonctionne, les apparentés. Si quelqu'un sait, je suis assez preneur. Député apparenté. J'ai un peu oublié ce truc-là. C'est pas Hollande qui est allé après les attentats de novembre 2015. Non, c'était le Congrès. Le président de la République a la possibilité de prendre la parole devant le Congrès, réuni à Versailles. Moratoire PS en ce moment, donc l'intergroupe NUPES est momentanément moindre. Contrairement à ce que dit Roussel, GDR ne s'est pas retiré de l'intergroupe, il bluffe H24. D'accord. LFI n'est pas un parti, il y a des adhésions payantes quand même. La France Insoumise, c'est un parti politique. Le groupe LFI à l'Assemblée nationale, c'est un groupe de députés à l'Assemblée nationale. C'est même pour ça qu'on l'appelle le groupe LFI. Que penser du rejet de la proposition de loi LFI sur la retraite par le bureau de l'Assemblée? Ça, c'était le même débat qu'on avait déjà eu la dernière fois qu'ils avaient proposé ça sur l'utilisation de l'article 40 de la Constitution qui prévoit d'empêcher les dépôts de propositions et de lois ou d'amendements qui aggraveraient les dépenses publiques. Ça fait partie de la rationalisation du travail parlementaire et ça avait déjà fait l'objet d'un vaste débat la semaine dernière. La NUPES existe encore ou pas? Ça dépend ce que tu appelles la NUPES. La NUPES n'est pas un parti, ça n'a jamais été un parti. La NUPES, c'est une coordination de différents partis politiques qui se sont mis d'accord à l'occasion des élections législatives de 2022 pour ne pas se gêner les uns les autres dans les circonscriptions. Donc c'est un accord électoral. Après, la NUPES, elle travaille en intergroupe à l'Assemblée nationale. Donc les différents groupes de la NUPES se coordonnent les uns les autres sur leurs actions, etc. Mais en ce moment, la NUPES va pas très bien puisque les communistes ont décidé d'en sortir et les socialistes ont aussi suspendu leur participation aux travaux. Et il n'y aura pas de liste unique NUPES aux élections européennes. En gros, la NUPES, c'est du marketing. Absolument pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Aurait-on un petit livre qui présente le fonctionnement républicain de manière synthétique à recommander? Bah, n'importe quel livre de droit constitutionnel. Il y aura peut-être une question sur l'abstention de la France pour la prolongation du glyphosate. Oui, absolument. Le glyphosate qui a été prolongé pour plusieurs années au niveau européen et la France qui s'est abstenue et qui n'a pas voté contre. La NUPES n'a jamais existé, c'était un coup de bluff gauchiste, très mauvais par ailleurs. Ok, mais alors comment tu expliques qu'ils se sont mis d'accord? Enfin, tu as le droit d'avoir ton point de vue, hein. Mais comment tu expliques que les groupes se sont mis d'accord pour ne pas se gêner les uns les autres dans les circonscriptions et se mettre d'accord sur des candidats? Ça s'appelle un accord électoral? Le coup de bluff qui a fait gagner plein de sièges à l'Assemblée, c'est fort. Ouais. Ouais. Ah bah c'est... Oui, la NUPES a permis à la France insoumise de passer de 17 à plus de 80 députés. Pas mal comme coup de bluff. Au QAG, quand les députés citent des expériences vécues de leurs citoyens pour appuyer leurs propos, ils ont l'obligation de prouver que ces témoignages existent d'une quelconque façon. Hein? Bah, je sais pas, quand il y a des inondations dans ta circo et que tu dis qu'il y a des inondations, on te demande pas de prouver qu'il y a des inondations. Je comprends pas la question. En gros, les députés peuvent envoyer leurs questions, mais c'est pas obligé. Oui, sur les questions au gouvernement, ouais. Ça commence dans 23 minutes, la séance des questions au gouvernement. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Installez-vous confortablement. On va suivre ensemble cette séance des questions au gouvernement. Et je vous rappelle encore une fois que cette semaine, ça change de format. On va avoir qu'1 h 15 de questions au gouvernement. Et les 45 minutes restantes auront lieu demain à partir de 14 h. Salut Jean, pour une ONG qui souhaite te contacter et qui aimerait participer à Backseat, comment te contacter? Ne me contactez pas, c'est pas la peine, c'est pas moi qui choisis les ONG qui passent dans Backseat, ce sont les invités de première partie, ce sont les créateurs de contenu qui sélectionnent, qui nous indiquent les ONG qu'ils veulent voir apparaître. Ça ne sert à rien de m'envoyer un mail pour me demander comment on fait pour passer à Backseat. C'est un nouveau format pour toujours ou juste exceptionnellement. C'est un test qui va être fait jusqu'en février prochain. C'est Sébastien Jumel, le seul intervenant GDR, donc c'est lui qui va parler des maires. Sébastien Jumel, c'est l'ancien maire de la ville de Dieppe. Donc ce ne serait pas étonnant que Sébastien Jumel pose une question au gouvernement, ouais. J'ai vérifié, pour les apparentés, ça ne change rien du tout, à part qu'ils ne sont pas comptés pour le nombre minimal d'inscrits dans le groupe, ça sert à marquer une distance. Ok, d'accord. Hello, peut-on espérer un électrochoc des leaders de gauche avant la présidentielle de 2027? T'es libre d'espérer ce que tu veux. Enfin, j'ai pas, me demande pas à moi. T'as pas besoin de mon autorisation pour espérer des trucs. Avec ce nouveau format, on ne risque pas d'avoir plus de questions Twitter et moins de questions de fond. Bah, ça m'étonnerait parce que c'est le format qui était déjà en vigueur avant 2019. Ce changement, c'est pas juste un retour au système des QAG d'il y a quelques années qui ont essayé de tout caser dans une journée pour rendre compte que c'était mieux avant. Ouais, si, c'est un peu ça. Si, c'est un peu ça. Hein. Les questions au gouvernement avant, il y avait 2 séances par semaine, puis les 2 séances ont été fusionnées en une seule, et là on est en train de les défusionner pour en refaire deux. Donc c'est un retour à l'étape d'avant. Est-ce que ça va chevaucher les questions au gouvernement au Sénat? Bah non, ça va être juste avant les questions au gouvernement au Sénat. Et pourquoi pas 2 séances d'1 heure? Je sais pas. C'est pas moi qui décide de comment ça s'organise. Salut Jean, est-ce qu'on peut aller aux toilettes en attendant la séance?
Ouais, j'irai moi chercher un petit café après.
Un politique qui pose une QAG en citant un exemple doit-il pouvoir prouver ce qu'il avance? Non. Est-ce que les vieux sénateurs te manquent? Non. Non, non, non. T'as l'air saoulé, Jean, j'espère que ça va. Mais non, je suis pas saoulé. Je suis fatigué. Je vous ai dit, en ce moment, c'est pas la grande forme. Mais moi, je suis content, hein. Y a pas de problème. On est en Sénat ou en Assemblée nationale? On est à l'Assemblée nationale. Ça va commencer dans 20 minutes. Et pourquoi pas des séances de réponses du gouvernement? Ça nous changerait d'avoir des vraies réponses. Le gouvernement ne... Il n'a jamais été écrit nulle part que le gouvernement devait apporter des réponses qui vous plaisent. La réponse du gouvernement, c'est la réponse du gouvernement. Et si le gouvernement répond en défendant son action et en mettant en avant son bilan, eh ben c'est parce que c'est sa réponse. Comment justifie-t-on l'existence du Sénat? Parce qu'on est en République, qu'on a un système bicaméral avec une représentation territoriale. Pourquoi pas cette séance de 20 minutes? Est-ce que tu as vu que le groupe Modem préfère que la loi immigration ne passe pas plutôt qu'il y ait un 49-3? Non, je suis pas au courant. J'ai pas vu passer ça. Dans quelle mesure les députés peuvent aborder l'agression sexuelle sous drogue d'une députée par un sénateur? Il y a des limites ou trucs à savoir sur ce genre de situation. Les députés ne posent des questions. En plus, tu le sais, toi, Lilo. Ça fait plusieurs fois que je te vois dans le chat le mardi, donc tu sais comme moi que les députés posent des questions au gouvernement sur l'actualité de ce que le gouvernement peut faire. Les députés ne vont pas poser au gouvernement une question qui concerne les sénateurs. Parce que le gouvernement, il ne peut rien faire sur le Sénat, c'est pas à sa main. Pareil pour les questions internes à l'Assemblée nationale. Les députés ne vont pas demander au gouvernement de se positionner sur des problèmes internes à l'Assemblée nationale. Donc non, les députés ne vont pas demander au gouvernement quoi que ce soit en lien avec l'affaire de tentative de viol présumé. De Gaulle avait voulu supprimer le Sénat, il me semble. Faux. Il a voulu le réformer, pas le supprimer. Genre, cette députée peut parler de son affaire si elle a un micro ou un truc de ce genre. Je comprends pas. L'ambiance de l'actualité cette semaine est nauséabonde en plus. Ah, en ce moment, l'actualité politique, elle est pas franchement folichonne, ouais. Est-ce qu'on peut le mettre en lien avec la définition du viol européen? Non. Non, ça n'a rien à voir avec le travail de la Commission européenne sur le sujet. Enfin, pas que la Commission, le Conseil aussi, le trilogue. Le contrôle actuel du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif a-t-il réellement du poids? Bah évidemment. Ils déposent des motions de censure, les députés. Certains députés d'opposition déposent des motions de censure. Donc c'est bien les députés qui contrôlent le gouvernement. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une motion de censure. Est-ce qu'il y a déjà eu des prédictions sur les sujets et des questions aujourd'hui? Bah oui, on est en train d'en parler là. Pourquoi des mouvements et pas des partis? Ça, faut leur demander à eux pourquoi ils préfèrent s'appeler mouvement plutôt que parti. Parce que les partis, ça fait partisan, ça fait sectaire. Et les mouvements, mais c'est du marketing, hein. Dire mouvement à la place de parti, c'est purement marketing. Est-ce qu'on pourrait imaginer une question au gouvernement sur les actions pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes à partir de cette affaire? Non, je pense pas. Mouvement, ça fait fluide. Ouais, mouvement, ça fait fluide, ça fait dans le vent. Dans le temps. Mais bon, au bout du bout, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, une famille politique, un parti politique, un mouvement politique, une tendance, etc. À la fin, il y a toujours des candidats aux élections qui sont présentés par des organisations, que du coup on appelle des partis politiques. Du coup, les QAG finissent à quelle heure? Elles finissent à 16h15, en principe. Est-ce qu'il y aura des questions concernant le nouveau président argentin Javier Milei? Je vois pas très bien quelles questions on peut poser, en fait. Qu'est-ce que tu vas demander au ministre des Affaires étrangères? On va pas refaire l'élection des Argentins, ils sont libres de faire le délire qu'ils veulent. Enfin, je vois vraiment pas quelle question tu peux poser au gouvernement de la République française sur l'élection d'un président de la République dans un autre pays. C'est la garantie d'avoir une réponse plate. Nous serons vigilants à la défense des intérêts de la France dans les relations bilatérales que nous entretenons avec nos amis argentins. Pas intéressant, enfin pas... Ouais, bof. On dirige pas le monde. Oui, c'est vrai, c'est ça, on dirige pas le monde, ouais. Les impacts sur nos relations avec eux. Ben non, mais justement, c'est qu'en fait, le gouvernement, il va te répondre, on verra bien. On va pas préjuger quoi que ce soit, on verra bien. On a des relations avec nos amis argentins, on a des accords internationaux avec nos amis argentins. On verra ce que fera ce nouveau président de la République élu en Argentine. Et en fonction, on avisera et on gardera la défense des intérêts français, blablabla. Enfin, tu vois, mais c'est... Donc ouais, non, 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 je vois pas pourquoi il y aurait une question. Je saurais même pas l'écrire, la question. Est-ce qu'il y aura des questions vis-à-vis du rapport de l'ONU sur les accords à Paris non respectés? Je sais pas. Me posez pas la question à moi de savoir quelles sont les questions qui vont être posées aujourd'hui, je ne le sais pas. J'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas le sujet des questions avant qu'elles soient posées. J'essaye de deviner, moi aussi, comme vous, quelles vont être les questions. Oui, il y a le rapport des Nations Unies sur le respect des objectifs de l'accord de Paris. Il y a le rapport d'Oxfam sur l'augmentation des inégalités dans le monde et les responsabilités du changement climatique. Donc oui, ça c'est. Je suppose qu'il va peut-être y avoir des questions posées là-dessus. D'ailleurs, si vous, vous étiez député cet après-midi et que vous aviez l'opportunité de poser une question au gouvernement, sur quel sujet est-ce que vous demanderiez au gouvernement quoi que ce soit? Dites-moi ce que vous, vous voudriez lui poser comme question. Ça commence dans 11 minutes. Il faut que ce soit sur un sujet d'actualité et il faut que ce soit en lien avec la compétence du gouvernement. Pourquoi êtes-vous raciste? Bah, ils vont te répondre, on n'est pas raciste. un partout. Pourquoi vous ne faites rien contre l'inflation artificielle qui permet aux grandes entreprises de s'enrichir? Ouais. Ok. L'histoire d'utilisation de logiciels interdits par la police, j'aime pas ça, faut être transparent. Ouais, sur le logiciel utilisé par les policiers, ouais. Selon les révélations des journalistes. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi n'envoyez-vous pas plus d'aide humanitaire au Congo? D'accord, donc l'aide humanitaire au Congo. Dans un monde politique où la langue de bois est aussi répandue, est-ce que les questions au gouvernement ont un réel impact? Je vous ai, je, ouais, en fait, les questions au gouvernement, c'est une séance de contrôle. C'est un peu comme un entretien d'évaluation. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, donc le gouvernement a l'obligation de répondre aux questions qui sont posées par le représentant du peuple. Donc c'est à ça que ça sert, les séances de questions au gouvernement. C'est une séance de contrôle parmi d'autres types de séances de contrôle qui existent. Est-ce qu'on peut poser des questions sur les engagements ou non à l'international? On peut poser des questions à Catherine Colonna, qui est la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, et qui donc dirige la diplomatie. C'est pour ça qu'on peut poser des questions sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, puisque la diplomatie française porte la voix de la France, comme on dit, et donc a une responsabilité dans ce que dit et ce que défend la France au niveau international. Pourquoi interdire une minute de silence pour les morts de l'ONU? Qui a interdit ça? Le gouvernement? Je suis pas au courant. Pour l'inflation artificielle, ils répondront qu'ils ont avancé des négociations annuelles entre les distributeurs et les grossistes de 2-3 mois en amenant à la mi-janvier. On n'aura pas beaucoup plus. Le gouvernement va-t-il continuer à se dessaisir des compétences sans réelle décentralisation et sans transfert d'argent? Bah ça c'est une question. Ouais, sur la fin des départements, c'est une question. Le gouvernement a missionné Éric Woerth pour faire un rapport sur la décentralisation. Donc le gouvernement veut mettre à jour la carte des compétences, la répartition des compétences au niveau local. En matière de décentralisation. Pourquoi ne pas faire intervenir les casques bleus, même un veto américain? Il manque un mot dans ta phrase. Je comprends pas. Si Eric Woerth s'en charge, il n'y a rien à craindre alors. Bah justement, si tu as des craintes, c'est l'occasion de poser une question au gouvernement sur le sujet. Qu'est-ce que vous voudriez que les départements aient comme compétences qu'ils n'ont pas déjà? Faut-il revoir la carte des compétences au niveau de la répartition territoriale? C'est un peu ironique pour un gouvernement qui n'a pas beaucoup d'anciens élus locaux. Ah bah du coup, c'est du sens de le confier à Eric Woerth, qui lui est un ancien élu local. Une question sur le fait que la France n'ait pas voté pour l'interdiction du glyphosate, donc c'est reparti pour 10 ans avec ce poison. Oui, absolument. La France s'est abstenue de voter lorsqu'a été proposé le vote pour la réintroduction du glyphosate. Ce qui est reproché par beaucoup d'écologistes. Donc oui. À mon avis, il va y avoir une question là-dessus. Hein. Là, clairement, bah, c'est directement la responsabilité du gouvernement, ça c'est sûr. Puisque je vous rappelle que le Conseil des ministres de l'Union européenne est composé par les ministres des pays membres de l'Union européenne. Donc la co-législation au niveau européen, ça se fait avec le gouvernement, avec le Parlement européen, certes, mais avec le gouvernement français. Si on avait voté, il se passait quoi? Ça ne passait pas. Si on avait voté, ça ne passait pas. Je sais pas. J'ai pas le décompte des votes. Je saurais pas te dire. Peut-être que le vote de la France n'aurait rien changé au résultat, mais c'est une question de principe. Quel bilan de cet émiettement des compétences? Le gouvernement est pourtant le premier à se plaindre des lourdeurs de l'administration et institutions, mais fait des lois d'exception quand ça l'arrange. Il n'y a pas beaucoup de rapport entre les lois d'exception et l'émiettement des compétences au niveau local. Là, je pense que tu mélanges deux choses très très différentes. Mais si ça peut te rassurer, oui, le gouvernement apparemment est parti pour réduire les pour clarifier en fait les compétences entre les niveaux départementaux, régionaux, entre les intercommunalités, les EPCI, les communes. Péchu a dit que la France s'était abstenue pour faire plaisir à l'Allemagne. Ah bon? Parce que les Allemands, ils utilisent du glyphosate? Le problème du glyphosate aussi pour les Français, c'est que nous, on n'en utilise pas, parce que c'est interdit en France, mais que du coup, ça crée une concurrence déloyale entre les agriculteurs français qui n'en utilisent pas et les agriculteurs d'autres pays européens qui, eux, en utilisent. C'est ce que j'ai compris. Les Allemands, en l'occurrence, ils utilisent du glyphosate, ouais, plus que nous. Non, c'est pas vraiment interdit en France. Oui, mais c'est très peu utilisé en France, non? C'est interdit que pour les particuliers. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est l'interdiction pour les cultures non agricoles. Pour les usages non agricoles, donc par les collectivités locales et par les particuliers. Je croyais que la France en utilisait de moins en moins du glyphosate. Peut-être que j'avais pas la bonne information alors. Très peu utilisé en France et interdit aux particuliers. En agriculture, c'est assez rare maintenant. D'accord. Bah, il y a des informations très contradictoires dans le chat, hein. Il y en a qui disent que c'est énormément utilisé, d'autres qui disent que non, en fait, c'est devenu négligeable avec le temps. La vente en volume augmente en France. D'accord. Bienvenue dans un chat Twitch. Non mais là, en l'occurrence, sur cette question-là. Alors. Qu'est-ce que le glyphosate? Le glyphosate en date. Travaux de l'ANSES. Autorisation de mise sur marché, évaluation. Publication des données sur les dispositifs de pharmacovigilance. Le glyphosate, c'est l'herbicide le plus utilisé en France et dans le monde. Substance active et non un produit. Nombre de produits sur le marché, restriction des conditions d'emploi. Bon, j'ai pas l'info là tout de suite sur cette page-là. Alors que la séance de questions au gouvernement va commencer. Bon, en attendant que ça commence, on va rester ensemble. Hop. J'arrive pas à trouver la proportion d'utilisation du glyphosate en France et la comparaison avec les autres pays européens dans l'agriculture. On verra quelle sera la question qui va être posée là-dessus. Quel groupe va poser une question sur le glyphosate? Peut-être les écolos, peut-être pas, je sais pas. Des questions par rapport à la crise de l'eau à Mayotte, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, on en a déjà eu. Des questions sur Mayotte, bien sûr. C'est complètement possible. Bienvenue si vous nous rejoignez, hein. On est en direct et on va regarder ensemble la séance des questions au gouvernement qui va commencer incessamment sous peu. Regardez, c'est en train de commencer. Les députés sont en train de se lever à l'annonce de l'entrée dans l'hémicycle de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui devrait pas tarder à rentrer. Voilà, il se lève. Et là, on voit Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui monte au perchoir pour présider cette séance de questions au gouvernement. Et ça bug, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Voilà, la présidente qui va aller s'installer derrière son petit bureau, qu'on appelle le perchoir, dans le jargon, pour présider cette séance.
Bonjour à tous. La séance est ouverte.
Allez, c'est parti.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Monsieur Charles Fournier pour le groupe
Charles Fournier, l'écologiste de la région Centre-Val de Loire.
Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Logement. Hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le gouvernement a présenté son plan de lutte contre les violences faites aux enfants, et c'est nécessaire. Mais parmi ces violences insupportables, il y en a une qui se joue tous les jours devant nous et dans nos villes, c'est celle que subissent les enfants lorsqu'ils dorment dans la rue. Ils s'appellent Zach, Michael, Hermès, Elisa. Ils dorment dans les rues de la ville de Tours, dans ma ville, comme les quelques 3000 enfants dans notre pays qui ne bénéficient pas de la protection que nous leur devons. C'est insupportable. Depuis 12 jours, j'accueille quelques familles dans ma permanence transformée temporairement en centre d'hébergement d'urgence. Ce n'est pas plus une solution que de dormir dans une école. Mais c'est pour lancer un énième cri d'alerte. Dès ce soir, ce sont de nombreux enfants et leurs familles qui appelleront à nouveau le 115 pour espérer que la rotation leur soit favorable. Beaucoup encore seront sans solution et c'est insupportable. L'abbé Pierre disait « Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. » S'ils savaient à quel point cette phrase résonne fort aujourd'hui.
Charles Fournier, il a 55 ans, il est député d'Indre-et-Loire, il est député écologiste, il est formateur au Centre national de la fonction publique territoriale, il est consultant auprès d'entreprises, c'est un député spécialiste sur les questions de démocratie et il pose une question sur l'hébergement des enfants à la rue.
À l'heure où je vous parle, monsieur le ministre, je n'ai aucune réponse à mes courriers et sollicitations. Ne me répondez pas par des chiffres. Ne me dites pas que vous faites tant et tant et que le budget va augmenter. En vrai, il va baisser par rapport aux dépenses 2023. Je vous le dis, monsieur le ministre, derrière les chiffres, ce sont des enfants en danger, des familles. Alors, ma question, êtes-vous prêt à venir sur le terrain pour regarder la situation? Êtes-vous prêt à réouvrir les discussions sur les 10 000 places d'urgence? Ne me répondez pas par des chiffres. Dites-moi, où dormiront les enfants ce soir à Tours?
Et Charles Fournier a effectivement transformé sa permanence parlementaire, donc son local, en centre d'accueil, d'hébergement d'urgence pour quelques personnes, notamment des familles avec enfants. On écoute la réponse d'Aurore Berger pour le gouvernement.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fournier. Selon la FAS et selon l'UNICEF, il y a 2822 enfants qui dorment à la rue. C'est donc 2822 enfants de trop qui dorment à la rue. Et donc il y a ce que nous avons fait et il y a ce que nous devons faire. Ce que nous avons fait, c'est préserver l'hébergement d'urgence, et vous le savez. C'est 203 000 places aujourd'hui d'hébergement d'urgence qui ont été consacrées, et c'est une augmentation considérable de moyens, et vous le savez là aussi, c'est 40% de moyens supplémentaires depuis 2017. Et il y a évidemment ce que nous devons continuer à faire, parce qu'en vérité, aucun parent, aucun enfant ne souhaite être dans un hébergement d'urgence. Ça doit être une solution temporaire. C'est là-dessus que la Première ministre agit, c'est là-dessus que Charlotte Caubel agit, c'est là-dessus que Patrice Vergriete agit, de manière à ce qu'encore une fois, ce ne soit qu'une solution temporaire de mise à l'abri pour garantir surtout qu'ils aient accès à un logement pérenne, avec notamment Logement d'abord. C'est ça notre véritable enjeu. Et puis, pour ceux qui, malgré tout, doivent être dans l'hébergement d'urgence, doivent avoir cette mise à l'abri, c'est un enjeu majeur qui est l'accès à la scolarisation de ces enfants. C'est ce que nous faisons avec le ministre de l'Éducation nationale, notamment. Parce qu'un enfant qui est dans le mal logement, parce que l'hébergement d'urgence, ça n'est pas du logement pérenne, doit avoir accès à une scolarité normale. C'est ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, ça n'était pas forcément le cas. C'est la question des médiateurs scolaires, c'est la question des médiateurs sociaux, pour garantir qu'encore une fois, la mise à l'abri, ce ne soit pas de la précarité supplémentaire pour nos enfants, ce soit une mise à l'abri sur l'ensemble des aspects de leur vie sociale et familiale. C'est ça que nous faisons et c'est comme ça que nous arrivons à répondre à cette urgence, évidemment.
Voilà la réponse de la ministre.
Monsieur le député.
Madame la ministre, merci.
Aurore Berger.
Ce soir, encore des enfants dormiront dehors et vous ne me répondez pas. Cette situation est insupportable. Elle continue, elle devrait toutes et tous nous émouvoir.
Je vous remercie, Madame la ministre.
Monsieur le député, je pense qu'il n'y a pas un membre du gouvernement ou un député qui n'est pas saisi d'émotion par cette question. Le sujet, ce n'est pas la surenchère de l'émotion. Le seul sujet qui nous importe à tous, c'est de garantir une solution durable à l'ensemble de ces enfants, à l'ensemble de ces familles. Et c'est comme cela que nous devons travailler ensemble. Je suis prête à venir chez vous, comme je suis prête à aller dans n'importe quel territoire pour aller voir ces enfants et aller voir ces familles.
Je vous remercie, Madame la ministre.
Est-ce que donc elle se rendra à Tours, dans la circonscription de Charles Fournier, pour venir rencontrer ses enfants hébergés
silence, s'il vous plaît.
En urgence.
La parole est à Madame Violette Spielbout pour le groupe Renaissance.
Violette Spielbout.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Yannick Moret, Saint-Brévin-les-Pins. Vincent Jeanbrun, La Haye-les-Roses. Anne-Françoise Piedalu, Plougrescan. Ce sont nos maires, nos élus, les symboles de notre République. Tous victimes de violences et d'attaques indignes parce que les maires, parce que les élus sont dévoués au service de leurs concitoyens et de l'intérêt général. Nos maires sont réunis cette semaine à Paris pour le 105e congrès des maires sur le thème « Communes attaquées, République menacée ». Dans nos circonscriptions, ils nous font remonter régulièrement un sentiment d'empêchement et d'impuissance des élus. Ils craignent la violence sur leur mairie, leur permanence, leur domicile et même envers leur famille. Ils dénoncent la haine en ligne et les menaces et alertent sur ce qu'ils appellent la fatigue républicaine. Je tiens à leur dire que les parlementaires sont à leur côté. Nous travaillons au Sénat et à l'Assemblée nationale sur leur protection comme sur le statut pour aboutir à des avancées concrètes au premier semestre 2024 et notamment suite au travail que je mène avec mon collègue Sébastien Jumel. Saluons ici l'abnégation des maires qui mérite le respect de tous. Le gouvernement aussi agit avec la mise en place des référents élus en préfecture, la création d'une ligne de suivi psychologique, le travail en cours sur les indemnités et la veille renforcée sur les atteintes aux élus. Oui, notre majorité est au travail pour les protéger. Pour que demain,
un peu de silence,
aucun
s'il vous plaît.
Citoyen ne craigne de s'engager dans un mandat d'élu local. Pour que demain...
Violette Spielbout, elle a 51 ans, elle est députée Renaissance du Nord, du côté de Lille et de Tourcoing. Elle est directrice des ressources humaines adjointe à la SNCF. Elle a été la directrice de cabinet de Martine Aubry à la mairie de Lille. Elle est aujourd'hui députée Renaissance et elle pose une question à l'occasion du congrès des maires de France sur les élus locaux qui sont victimes de violences. Il y en a de plus en plus des maires qui sont victimes de violences. On écoute Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui va lui répondre. C'est lui qui s'occupe de la police, donc de la répression des violences contre les élus.
Permettez-moi un moment, en effet, où les maires de France se réunissent en congrès, de leur apporter, comme j'imagine, toute la représentation nationale, le soutien dans une société qui est de plus en plus violente. Et vous avez raison. Certains ici ont été maires, c'est pas le cas de tout le monde, en effet. Je peux le dire, monsieur le député Minot.
Gérald Darmanin, il a été maire de Tourcoing.
Monsieur le député Jumel et vous-même, apporte sans doute dans la mission que vous allez rendre au gouvernement des réponses à la violence qui touche les maires, dont je voudrais dire que 7 menaces sur 10 sont le fait d'élus avec des administrés et fort heureusement essentiellement des outrages, essentiellement des insultes, très peu de violences physiques, mais lorsqu'elles arrivent, elles sont évidemment extrêmement difficiles et on l'a vu, bien évidemment, extrêmement graves. 3500 maires sont désormais dans le dispositif Alarme Élu. Les 36 000 maires devraient y être avec les services de Monsieur le garde des Sceaux. Nous avons, avec Monsieur le garde des Sceaux, apporté notre contribution au travail qu'a fait l'Assemblée nationale et le Sénat pour que ce soit les mêmes sanctions pour les dépositaires de l'autorité publique et les élus de la République. Le texte sera publié complètement au début de l'année 2024 pour que les tribunaux puissent condamner fermement les attaques contre les élus. Et nous devons continuer à former les policiers et les gendarmes plus de 5000 aujourd'hui. C'est le cas des procureurs de la République qui, je sais, rencontrent partout, arrondissement par arrondissement, les procureurs de la République, les sous-préfets, les préfets, les élus.
Gérald Darmanin, donc, qui répond à Violette Spilbou. Je rappelle que Violette Spilbou et Sébastien Jumel, que vous allez entendre tout de suite après, sont les deux parlementaires qui sont en train de rendre un rapport justement sur la violence contre les élus.
Que comptent les enseignants, que comptent les personnels qui sont ceux des sapeurs-pompiers ou des médecins, c'est ceux qui représentent la République. On devrait tous être d'accord sur ça. Et la mission que vous faites à M. Jumel sera être écoutée par la Première ministre et par le Président de la République.
Merci.
C'est ça la fameuse mission.
Monsieur le ministre.
Bougez pas.
La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR.
Voilà, Sébastien Jumel que vous voyez à l'image.
Ministre, 40 démissions par mois. 40 démissions par mois et le
c'est l'ancien maire de Dieppe.
De France qui tiennent congrès que l'État les ignore, que l'État quelquefois les méprise. Un mépris qui se traduit par l'absence notable du président Macron à cette rencontre de tous ceux qui sont le cœur battant.
Bougez pas, bougez pas, bougez pas, ça revient. Avec une meilleure image.
Pour répondre aux exigences de l'État qui s'accumulent. Et trop souvent, nos élus locaux sont empêchés, parfois humiliés, souvent enquiquinés plutôt qu'accompagnés. Pourtant, les maires tiennent la baraque France. Gilets jaunes, Covid, inflation, émeutes, les maires n'ont pas manqué face aux crises. Ils sont restés à portée d'engueulade sans disposer des moyens pour répondre aux maux de nos concitoyens et des outils pour recoudre une République fracturée. Dernier rempart républicain, urgentiste d'une France qui va mal, nos maires ont le moral en berne. L'absence d'un véritable statut pèse évidemment dans la balance et nous mettrons avec ma collègue Spilbout notre rapport sur la table pour ouvrir la voie à un véhicule législatif répondant aux urgences. Les protéger face aux violences évidemment, mais pas seulement. Car les causes sont nombreuses et plus profondes aussi. Depuis trop longtemps, la commune est attaquée, fragilisée dans son autonomie financière, malmenée par un déménagement du territoire subi. Attaquer la commune, c'est attaquer la République. Défendre la commune, c'est lui donner les moyens de prendre soin des habitants. Défendre la commune, c'est lui donner les moyens financiers pour préserver les services publics. Concrètement, cela passe par le renforcement des pouvoirs d'agir du maire dont la vie doit compter pour défendre une classe menacée, sauver une maternité, aider une famille d'enfants handicapés ou pour faire face concrètement à la bombe sociale que représente le logement.
Sébastien Jumel, il a 51 ans, il est au Parti communiste français, il a été collaborateur parlementaire, mais il a surtout été le maire de Dieppe en Seine-Maritime pendant 9 ans. Et donc il pose une question à son tour après Violette Spilbou sur le même sujet. Lui, il demande comment est-ce qu'on fait pour respecter les communes. Et il parle d'une forme de maltraitance institutionnelle dont sont victimes les maires qui n'ont pas assez de moyens donnés par l'État pour faire... avancer et faire avancer leur dossier. On écoute la réponse du gouvernement.
Monsieur le député Jumel, les maires sont au cœur de nos préoccupations et des préoccupations du gouvernement, vous le savez. Ce sont eux qui incarnent la République, mettent en œuvre pragmatiquement des solutions de terrain. On y travaille tous les jours. Ce sont les premiers à expérimenter, à adapter, évaluer les politiques publiques. La démission d'un maire est toujours une perte dans les rangs de ceux qui s'engagent pour l'intérêt général. Il est demandé au préfet de suivre chacune de ces situations individuellement. L'engagement de nos maires est précieux. Ils sont en première ligne du phénomène d'atteinte aux élus, vous avez raison de le rappeler. Leur engagement exceptionnel mérite une protection exceptionnelle. C'est ce que fait le gouvernement au travers des dispositifs spécifiques d'un plan national financé à hauteur de 5 millions d'euros pour 2024. Forces de sécurité intérieure, magistrats, associations ont été mobilisées. Mais il faut aussi donner aux maires des leviers d'action. Le gouvernement s'engage à garantir des dotations financières pérennes, à simplifier les conditions d'exercice de leur mandat, à développer le droit de dérogation à la main des...
Sabrina Agresti-Roubache, c'est la ministre chargée de la politique de la ville, donc notamment l'action prioritaire dans les quartiers populaires. Mais elle s'occupe aussi donc du coup de la relation avec les collectivités locales, on s'en doute.
Dans le cadre d'une
je crois qu'elle vient des quartiers nord de Marseille, Sabrina Agresti-Roubache, si je ne dis pas de bêtises.
La démocratie locale organisée par Dominique Faure, collègues, et l'AMF s'est tenue le 7 novembre dernier, à vocation à nourrir les réflexions qui se sont engagées et qui sont engagées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a beaucoup à faire, c'est vrai, sur ces sujets pour renforcer le rôle des maires et leur donner les moyens de conduire leur mandat dans des conditions à la hauteur de leur engagement. Vous êtes mobilisés, les associations d'élus le sont, nous sommes mobilisés, nous sommes collectivement mobilisés et nous pouvons réussir ensemble. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Mes chers collègues, je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation de l'Assemblée nationale de Mauritanie, conduite par Monsieur Sidney Sokona.
Salut les Mauritaniens.
Du groupe d'amitié France-Mauritanie.
Salut les Mauritaniens. Et donc c'est une délégation du Parlement de Mauritanie qui vient en visite, rendre visite à leurs homologues français qui donc viennent assister à une séance de questions au gouvernement. Applaudissements polis sur tous les bancs de l'Assemblée nationale.
Je vous remercie. La parole est à monsieur Didier Lemaire pour le groupe Horizon.
Didier Lemaire.
Merci, merci madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Dans la nuit de samedi à dimanche, Thomas, 16 ans, est décédé à la suite de ses blessures dans un village de la Drôme après une attaque d'une violence inouïe et sans motif apparent. Je veux ici m'associer, au nom du groupe Horizon, à la douleur de ses proches, de sa famille, de ses amis, de son village.
Voilà des applaudissements à l'évocation de cette victime, le jeune Thomas, qui est décédé. Je suppose que c'est dans la circonscription de Didier Lemaire, dans le Haut-Rhin.
Nous vivons actuellement en France, que ce soit dans nos villages, nos villes, une période de tension sociale et de repli. Et cette attaque dans un petit village du sud de la France, ajoutée aux autres difficultés que rencontrent nos concitoyennes et concitoyens, au quotidien participe au climat anxiogène dans lequel nous évoluons depuis quelques mois.
Ah non, c'était dans la Drôme, pardon.
Ce climat, c'est
aussi
d'une pression toujours plus importante portée sur les femmes et les hommes qui consacrent leur vie professionnelle et bien trop souvent personnelle au service de nos concitoyens. Je pense ici aux élus, aux professeurs, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, personnels soignants, celles et ceux qui ont été cités par mes collègues tout à l'heure. La nation a encore enterré un de ses professeurs il y a maintenant quelques semaines. Un maire sur deux ne souhaite pas se représenter en 2026. Qui va tenir notre nation lorsque plus personne ne s'engagera dans le vivre ensemble ? Lorsque ces personnes, engagées ou non pour notre République, sont attaquées, agressées, caillassées, insultées, c'est l'intégrité de notre démocratie tout entière qui en pâtit. Aussi, il est indispensable que l'État apporte très rapidement des réponses et des solutions pérennes à cette situation afin de garantir la sécurité, la tranquillité et le bien-vivre ensemble de toutes et tous en France. C'est pourquoi j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, ce que vous comptez faire pour endiguer ce phénomène. Je vous remercie.
Didier Lemaire, donc, il a 48 ans, il est sapeur-pompier lui-même, il est un spécialiste des questions du coup de sécurité civile. Il a fait une mission d'information sur le modèle de protection et de sécurité civile et il est le vice-président du groupe d'études sur les sapeurs-pompiers. La sécurité civile et les gestions de crise. Une question un peu générale autour du vivre ensemble et du climat de violence. Éric Dupond-Moretti qui est copieusement applaudi par les députés de la majorité alors qu'il prend la parole. Éric Dupond-Moretti qui sort tout juste d'un procès par la Cour de justice de la République.
Le maire.
On attend le délibéré.
Vous irez bientôt en vacances, vous aussi. Monsieur le député.
Allez. Monsieur. Un peu de silence, s'il vous plaît.
Monsieur le député Le Maire. D'abord, je voudrais m'associer évidemment aux propos de compassion que vous avez eus à l'égard de ce gosse qui est mort à l'âge de 16 ans. On pense évidemment tous à sa famille et je ne doute pas que dans quelques instants, certains tenteront d'exploiter de façon politicienne ce drame absolu. S'agissant des élus, j'ai demandé au procureur de la République des réponses fermes. Je ne veux pas me payer de mots, je veux vous annoncer des chiffres. En 2022, le taux de réponse pénale des infractions commises contre les élus s'élève à 98% contre 94% en 2017. À gravité égale, pour des faits de violence, le taux de prononcé d'un emprisonnement ferme est de 51% pour un quantum de 15,4 mois lorsque la victime est un élu, contre 23% et 8% en l'absence de et 8 mois en l'absence de circonstances aggravantes. Le taux de déferrement, monsieur le député, est de 51% lorsqu'il s'agit d'une victime qui est un élu, contre 11%, et le taux de mandat de dépôt et de 63% contre...
Le mandat de dépôt, c'est ce qui rend exécutoire immédiatement après le prononcé du verdict une peine de prison.
...de la qualité d'élus par nos juridictions. Les uns et les autres peuvent ne pas être d'accord avec ça. On ne fait pas mentir les chiffres.
Éric Dupond-Moretti, donc, qui a cité des chiffres sur l'efficacité de la justice à obtenir des condamnations à de la prison ferme pour les violences contre les élus.
Pour le groupe La France Insoumise.
On continue avec Carlos Martins-Bilongo pour les Insoumis.
Madame la Première Ministre, depuis les terribles massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas, nous condamnons avec la plus grande fermeté les crimes de guerre visant à terroriser les populations civiles israéliennes. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les crimes de guerre et la vengeance aveugle qu'effectue l'armée israélienne sur le peuple palestinien. Le 9 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit « Nous ferons de Gaza une île déserte. Nous viserons chaque recoin de la bande de Gaza. » Pourtant, la France a accordé un soutien inconditionnel à Israël. Et depuis 45 jours de conflit, voilà le résultat. La bande de Gaza est assiégée du nord au sud. Il y a des bombardements partout. L'agence Reuters et les chiffres de l'ONU sont accablants. Plus de 13 000 morts. Il y a 5 500 enfants qui décèdent dans la bande de Gaza. Réagissez ! 40 à 50% du bâti de la ville sont complètement détruits. 280 écoles sont détruites. Le port de Gaza est détruit. Et j'aurais une question, Madame la Première Ministre. La France, selon le rapport de 2023 au Parlement, les exportations d'armement de la France auraient vendu 111 millions d'euros d'armes à Israël en 2017, puis 15,3 millions en 2022. Outre ces ventes effectives, la France a délivré de nombreuses licences d'exportation de matériel de guerre pour 2022. J'aimerais votre réponse, Madame la Ministre. La France continuera-t-elle à livrer des armes à Israël ?
Carlos Martins-Bilongo, il a 32 ans, il est prof d'économie et de droit au lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, il est député du Val-d'Oise. Et il pose une question donc sur les livraisons d'armes de la France à Israël suite à la situation à Gaza dont il s'alarme énormément. On écoute Catherine Colonna, la porte-parole, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
La position de la France ne varie pas. Israël a subi une attaque terroriste barbare, vous ne l'ignorez pas. Et Israël a le droit de se défendre, comme nous-mêmes, nous aurions le droit de nous défendre. Des otages sont retenus dans la bande de Gaza, dont des Français. Nous demandons leur libération immédiate, sans condition. Et je suis sûre que vous pensez aussi à eux, monsieur le député. Et enfin, les Palestiniens ne doivent pas payer pour les crimes du Hamas. Voilà nos principes, voilà des principes justes et clairs, ceux qui sont les nôtres, depuis le début. Alors oui, monsieur le député, il y a à Gaza trop de souffrances et trop de morts. Nous l'avons dit clairement depuis plusieurs semaines. Il faut une trêve immédiate, durable, pour que davantage d'aide entre à Gaza, pour que les populations civiles soient protégées et pour que cette trêve conduise à un cessez-le-feu. Nous agissons. C'est ce consensus qui s'est forgé à Paris le 9 novembre lors de la conférence humanitaire et c'est aussi la position d'un nombre croissant de nos partenaires.
Ouais.
La France est aussi au rendez-vous concrètement pour l'aide aux Palestiniens, soutien aux Nations Unies, aide médicale, déploiement du porte-hélicoptère d'Ixmude, possibilité ouverte pour des enfants palestiniens de pouvoir être soignés en France et je remercie mon collègue ministre de la Santé. Voilà du concret, monsieur le député. S'agissant des hôpitaux, je voudrais en parler, ce sont des sanctuaires. Ils le sont pour... Les Israéliens, comme
évidemment les Insoumis, qui aimeraient bien avoir une réponse sur la question sur les armes.
Le droit international interdit formellement de détourner des hôpitaux à des fins militaires. Et cela se produit. Quant aux crimes commis par les colons contre les Palestiniens, crimes trop nombreux, nous les condamnons officiellement et ouvertement. Mais la France va plus loin.
Madame la... Pas de réponse.
Il faut
madame
redonner
ministre,
de la perspective
désolée,
politique
à
un État.
Merci.
Pas de réponse donc sur la question
Bilongo, vous n'avez que deux
du partenariat secondes. Sur les armes.
Madame la ministre, l'article 6 du TCA interdit la France de vendre des armes pour des crimes de guerre.
Merci beaucoup.
On n'aura pas de réponse sur la question des ventes d'armes de la France à Israël. Catherine Colonna qui s'est bornée à rappeler donc la position de la France qui n'a effectivement pas changé depuis la semaine dernière sur le sujet de la situation à Gaza. Lisette Paulet pour le Rassemblement National.
Madame la Présidente, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour Thomas, assassiné dimanche matin. Je redis mon soutien à ses proches et à tous les blessés de cette terrible attaque. Notre pays est une nouvelle fois en deuil. Thomas, 16 ans, est décédé à Crépol après avoir reçu un coup de couteau. Ce meurtre est le témoignage criant de l'ensauvagement de notre société. Notre ruralité n'est désormais plus épargnée par cette sauvagerie qui bouleverse des vies et en brise d'autres. La violence mise en œuvre, la détermination des agresseurs et la présence de couteaux, de cuisine, interdisent de qualifier cet équipé sauvage de simple rixe, ainsi que le font certains nombres de médias. Que des racailles viennent faire une razzia en toute impunité est intolérable. Si des jeunes agissent comme cela, c'est qu'il y a un réel problème de société. Enzo, Axel, Anthony et maintenant Thomas. La liste des enfants de France tués gratuitement est trop longue. Autant de familles endeuillées qui ne comprennent pas que ces atrocités continuent. Les mesures pour combattre cet ensauvagement ne sont pas prises, mais cela ne peut plus durer. La France en a assez de voir ses enfants mourir. Les Français ne supportent plus ce terrorisme du quotidien, cette décivilisation qui augmente. Non, monsieur le ministre, cette mort n'est pas un fait divers. Non, cette mort et ses blessés, ce n'est pas normal.
Lisette Paulet, elle est députée de la Drôme, elle a 55 ans. Du côté de Montélimar, elle est députée donc du Rassemblement National. C'est une ancienne femme de ménage. Elle a été chef d'équipe d'entretien au sein du groupe Sodexo. Et elle demande donc plus de sécurité contre l'ensauvagement de la société.
Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que cette insécurité dans nos villes et nos villages cesse ? Ce qui arrive, nous l'avions malheureusement prédit. Et les Français souffrent du manque de fermeté dans la justice. Ces jeunes n'ont plus peur de tuer, ils n'ont plus peur de la police, ils n'ont plus peur de la justice. Mais il est temps que la peur change de camp. Il est temps que les sanctions soient
Merci
enfin appliquées.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Alors, on écoute le ministre de l'Intérieur qui va répondre sur cette insécurité que dénonce la députée Lisette Paulet.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi, évidemment, également au nom du gouvernement, d'adresser mes condoléances à cette famille, mais aussi aux blessés, puisqu'il y a 3 blessés, me semble-t-il, à l'hôpital, et à leur famille pour leur dire que, évidemment, ce qui s'est passé voilà quelques heures est absolument ignoble, inacceptable, et que tous les moyens de la gendarmerie nationale ont été mis. Et je peux vous annoncer, madame, que voilà quelques minutes, 7 interpellés ont été faits par la gendarmerie nationale aux environs de Toulouse. L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ce crime odieux, mais nous pouvons penser qu'en effet, rapidement, après 70 auditions, le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du procureur de la République, a pris ça très au sérieux et que ces personnes seraient, celles qui sont évidemment aujourd'hui accusées de l'être par la gendarmerie nationale, interpellées et j'espère qu'ils seront condamnés après une enquête, bien évidemment, aux plus dures peines par notre justice. Je veux dire, madame la députée, que le travail que nous faisons, policiers et gendarmes, partout sur le territoire national, dans les villes comme dans les campagnes, est un travail admirable. Et oui, j'ai été le premier à dire, madame la députée, que le travail et des gendarmes est un travail difficile qu'il nous faut soutenir et qu'il faut éviter. Au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, ni comment cela s'est passé, évitez, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Emmanuelle Antoine pour le groupe Les Républicains.
Ce week-end, dans la nuit du 18 au 19 novembre, dans ma circonscription, la vie d'un adolescent de 16 ans a été emportée. Thomas a succombé aux coups qui lui ont été infligés. Ce jeune avait toute une vie devant lui. Il lui restait tout à vivre, ses joies, ses amours, ses peines, ses espoirs. Tout cela lui a été enlevé. Thomas avait une famille, des parents aimants, des amis proches. C'est vers eux que vont mes pensées. Thomas n'a pas eu droit à une minute de silence. Je tiens donc à lui rendre hommage dans cet hémicycle, temple de notre République, pour que la La représentation nationale témoigne unanimement de son soutien envers sa famille. Ce week-end, une bande de jeunes a fait irruption dans un moment festif pour en découdre. Lors d'un bal organisé par le comité des fêtes de la commune de Crépol, ils ont violemment attaqué à l'arme blanche les participants de cette soirée. 16 autres personnes ont été blessées et 2 sont en urgence absolue à l'issue de ce drame. Je leur adresse tout mon soutien. Pour tous les jeunes présents, ce qui devait être un moment de fête a finalement été le mouroir de leur insouciance juvénile. Pour tous les participants, la convivialité de cet événement a effroyablement laissé place au deuil et à la désolation que partage tout notre territoire. La violence a encore frappé dans notre pays. Cette violence qui ne cesse de meurtrir et d'endeuiller. Cette violence qui gangrène tout et que l'on ne parvient pas à enrayer. Nous devons unanimement la condamner. Notre République doit être forte. Oui, elle doit avoir les moyens de faire face aux agresseurs et se montrer ferme dans ses condamnations. Pour que des vies cessent d'être ôtées, des familles entières d'être endeuillées et pour que nos jeunes puissent vivre leur jeunesse tout simplement.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Antoine pour la mesure dont vous avez fait preuve en posant cette question. Oui, la vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. J'ai noté d'ailleurs que dans la question... J'ai noté d'ailleurs que dans la question précédente, on évoquait le mot de razzia. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez, qu'il s'agisse de la petite...
Razzia, c'est un mot arabe qui veut dire massacre, je crois. En gros, ça vise directement les musulmans.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Une dernière chose. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composé d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang. Et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice, qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Antoine. Madame Antoine, s'il vous plaît.
Monsieur le garde des Sceaux, j'espère que oui, la justice sera à la hauteur.
Merci beaucoup, Madame la députée.
Donc c'est la troisième question consécutive sur le meurtre du jeune Thomas dans la Drôme. Merci. Philippe Fay pour Renaissance.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés. Le 8 novembre, dans l'Hérault, Sonia a été mortellement poignardée à 26 reprises par son mari. Le 15 novembre, dans la Somme, c'est Sonia qui a été battue à mort par son compagnon à leur domicile. Mais c'est aussi Claire, Madison, Irène, Juliana, ainsi que Séverine ou encore Edith ces 6 dernières semaines. 93 femmes ont perdu la vie en raison de féminicides depuis le début de l'année. 93 pertes tragiques. Je tiens à avoir une pensée pour chacune d'entre elles. Ma question s'adresse à Madame la ministre Bérangère Couillard. En 2022, plus de 240 000 personnes ont été victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une hausse de plus de 15% par rapport à 2021. Si ces chiffres restent particulièrement inquiétants, ils sont également révélateurs d'une libération verbale, une prise en compte plus importante de la parole des femmes. Les violences sont multiformes. Pour certaines, elles ne sont même pas perçues comme telles. C'est la base du travail réalisé sur mon territoire par les jeunes du lycée professionnel Jules Verne d'Étaples-sur-Mer qui sont présents ce mardi dans l'hémicycle. Ils ont créé un violentomètre à taille humaine qui a été inauguré ce midi à l'Assemblée nationale. Je tenais, Madame la Présidente, à vous remercier d'avoir soutenu cette initiative.
Philippe Fay, il est député du Pas-de-Calais, il a 54 ans, c'est un ancien prof d'histoire géo au lycée Alexandre Ribaud à Saint-Omer.
Est basé sur le consentement et ne comporte pas de violence.
Il pose des questions sur les féminicides.
Il nous invite toutes et tous à réfléchir sur la qualité de notre rapport à l'autre. Chers collègues, samedi marquera la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Alors que la mobilisation grandit d'année en année, alors que l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat, les moyens de lutter contre ce fléau doivent être à la hauteur. Madame la ministre, je connais votre mobilisation sur ces sujets essentiels. La représentation nationale et les Français attendent des actes forts pour les mois à venir. Pouvez-vous nous présenter votre stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes ?
Merci. Quelle est la stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes portée par le gouvernement ? On va écouter Bérangère Couillard, qui s'occupe de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc qui va répondre et nous expliquer ce que fait le gouvernement contre ces féminicides à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Déjà, je tenais à vous remercier pour l'initiative que vous avez lancée avec les lycéens du lycée Jules Verne d'Étaples-sur-Mer. Pour cette initiative, avec Madame la Présidente, nous étions ravis de pouvoir l'inaugurer. Et c'est évidemment un travail de sensibilisation qu'il est indispensable de mener. Et je vous remercie parce que ça permet de rappeler qu'il suffit d'une bousculade, il suffit d'une claque pour que les violences adviennent. Rappelez que nous agissons depuis maintenant 2019 avec le Grenelle des violences conjugales. 5 lois ont été votées ici dans cet hémicycle et également nous avons mis en place de nombreux dispositifs. Le recueil de la parole des femmes, d'abord, avec l'extension de la ligne téléphonique 3919, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Nous avons également formé des policiers et des gendarmes. 150 000 policiers et gendarmes ont été formés et 100% de nos élèves issus des écoles de police et gendarmerie le sont. Nous avons également fait en sorte de déployer des dispositifs qui permettent de protéger les femmes. C'est quoi ? Ce sont des bracelets anti-rapprochement, plus de 1000, des téléphones grave danger également, plus de 5000 qui sont aujourd'hui déployés. Et puis nous avons sensiblement augmenté les places d'hébergement d'urgence. Nous avons multiplié par 2, ils sont aujourd'hui au nombre de 10 000 en 2023. Nous continuons avec également le traitement des auteurs, parce que sans auteur, il n'y a pas de victime. Nous souhaitons agir sur la récidive. Nous avons ouvert 30 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Ils sont accompagnés psychologiquement, également à la réinsertion à l'emploi et aussi au traitement des addictions, parce qu'il n'est pas rare de trouver dans le cadre de violences au sein du couple des personnes qui sont sous le coup de l'alcoolémie ou de différentes drogues. Mais évidemment, nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Vous savez, beaucoup de choses sont encore à faire. La mise en place, évidemment, des ordonnances de protection en 24 heures, les pôles spécialisés
merci
ou encore le PAC Nouveau Départ.
Madame la ministre, merci beaucoup. La parole est à Madame la vice-présidente Rabault.
Valérie Rabault, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est socialiste.
Merci, Madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, je ne sais pas trop à qui je vais poser la question du coup, mais la pénurie de médicaments connaît un nouveau pic en France et selon l'Agence nationale de la sécurité du médicament, il manque aujourd'hui de l'amoxicilline, du sulbactamol pour contre l'asthme, du cocarde essentiel comme métabloquant, du créon prescrit à ceux qui n'ont plus de pancréas et encore beaucoup d'autres médicaments.
Il y en a beaucoup dans le chat qui sont touchés par les pénuries de médicaments.
On est passé de 700 médicaments en pénurie en 2018 à plus de 3700 en 2022. Alors vous me direz, tous les pays en Europe connaissent des difficultés, c'est vrai. Mais la France est le pays qui, en Europe, connaît le plus de difficultés.
Ah oui, vous êtes nombreux quand même.
Pénurie. Depuis 4 ans, vous avez annoncé au gouvernement plusieurs plans qui n'ont eu aucun effet sur l'approvisionnement en médicaments. Vous dites d'un côté vouloir relocaliser et de l'autre, vous ne dites absolument rien quand Sanofi, qui produit aujourd'hui 70% du paracétamol, a annoncé fin octobre vendre son usine en France. Vous ne vous êtes absolument pas soucié de savoir si la production de paracétamol resterait en France. La seule chose que vous faites dans le budget de la Sécurité sociale, vous mettez des franchises sur les boîtes de médicaments que les Français ne peuvent même plus se procurer. Alors, mesdames et messieurs les ministres, donnez-moi 2 mesures pour faire en sorte de réduire les pénuries de médicaments.
Valérie Rabault, ancienne responsable de la prospective dans le groupe bancaire BNP Paribas, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, je le rappelle. Elle a 50 ans. On écoute la réponse d'Aurélien Rousseau, un ancien socialiste, si je ne dis pas de bêtises, Aurélien Rousseau.
Alors, que fait le gouvernement contre la pénurie
Madame
de médicaments ?
Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, nous sommes aujourd'hui dans une situation de tension sur l'approvisionnement de certains médicaments, mais qui n'est pas la même situation que l'an dernier. Aujourd'hui, sur le territoire national, notamment après la saison extrêmement difficile de l'année dernière, nous avons les stocks qui permettent, sur les médicaments que vous avez cités, je ne parle pas là des médicaments innovants où nous rencontrons les mêmes difficultés que les autres pays d'Europe, nous avons les stocks. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dérégulation complète du système de distribution avec, il faut mettre les mots sur les réalités, avec, par certains acteurs qui veulent profiter du système pour assurer de la rentabilité. Aujourd'hui, j'ai réuni tous les acteurs de la filière du médicament il y a maintenant 8 jours. Demain, je serai en mesure d'annoncer. Demain, je serai en mesure d'annoncer que les différents acteurs de la chaîne, industriels, grossistes, répartiteurs et pharmaciens, se sont mis d'accord pour stopper la dérive qui consistait notamment pour certaines pharmacies à acheter directement auprès des industriels, ce qui conduisait à favoriser les plus grosses pharmacies par rapport aux petites pharmacies, notamment les pharmacies rurales. Nous reviendrons à une régulation normale. Et dans le PLFSS, Madame la Présidente, vous l'avez sans doute noté, nous proposons également...
Le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
...de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour que précisément, dans un cas comme celui-ci, nous ne soyons pas forcément obligés de passer par la bonne volonté des acteurs, même avec la pression du gouvernement, mais que nous ayons des mesures directes de police sanitaire pour prendre le dessus sur certaines pratiques qui ne sont pas acceptables. Je vous
merci
remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Rabault.
Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi, j'ai 2 demandes. Sur l'obligation de constituer des stocks de 2 à 4 mois, vous n'avez fait aucun contrôle. Il y a eu 0 sanction en 2021 et 3 en 2022 pour 300 000 euros sur un budget total de 24 milliards d'euros. Je vous demande de faire appliquer des sanctions. Et face aux pénuries les plus graves, je vous demande aussi d'assumer votre rôle de puissance publique et d'organiser une production minimale dans les hôpitaux, ce que prévoit l'article
Merci.
32 et que vous ne mettez pas en œuvre aujourd'hui.
Merci, ma chère collègue.
Valérie Rabault, toujours très précise dans ses questions.
Stéphane Rambaud.
Et elle demande plus de sanctions et plus de production par la puissance publique. Stéphane Rambaud pour le Rassemblement national.
Merci, Madame la Présidente. Mes propos s'adressent à Madame la Ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Alors que s'ouvre à Paris le traditionnel salon des maires et des collectivités, permettez-moi d'aborder 2 problématiques qui impactent l'avenir de nos démocraties locales. Depuis plusieurs années, nous assistons à une augmentation des violences envers les élus locaux, particulièrement les maires. En 2022, le ministère de l'Intérieur a signalé une hausse de 32% de ces violences. Ces actes, variant de l'intimidation verbale à des agressions physiques, mettent en lumière la vulnérabilité croissante des élus, et ceci sans soutien concret du gouvernement. Parallèlement, les problèmes financiers s'accumulent. Des décisions unilatérales, telles que la suppression non compensée de la taxe d'habitation, mettent en péril les finances des communes. Madame la Ministre, dans votre interview au JDD, du 19 novembre, vous avez déclaré « les maires doivent faire des efforts ». Mais les maires sont déjà contraints de gérer avec des ressources de plus en plus limitées. Et cette situation pèse sur les épaules des élus qui reçoivent les indemnités les plus modestes.
Stéphane Rambaud, il a 63 ans, il est député du Var pour le Rassemblement national. C'est un ancien commissaire de police. Il a été directeur de la police de proximité de Toulon.
Par le cas de la ville de Lacroix, dans ma circonscription du Var, où le PLU pour construire une clinique a été unilatéralement mis à l'arrêt par la métropole, ceci contre le gré de cette commune et sans l'avoir officiellement informé alors que le maire avait lancé la révision.
Stéphane Rambaud qui pose une question donc sur la situation des élus locaux à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Salon des maires de France.
Depuis 2020 et des centaines de communes pourraient manquer de candidats aux prochaines municipales.
Merci
Face
beaucoup.
À cette situation,
vous avez plus de
ma
temps,
question
mon cher
est simple.
Collègue. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache.
On écoute à nouveau Sabrina Agresti-Roubache,
de la citoyenneté,
qui vient aussi du Sud, pas dans le Var, mais dans les Bouches-du-Rhône.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Rambeau, travailler en confiance ne veut pas dire être d'accord sur tout, vous le concéderez, mais en tout cas, moi, pour dans ma méthode, dans ce que je dis à chaque fois, beaucoup de vos collègues m'interpellent et je n'ai jamais hésité à concerter, à écouter, à entendre. Eh oui, c'est la méthode du gouvernement. Écouter, concerter avec les élus locaux, entretenir un lien direct, renforcé, ne vous en déplaise, avec celles et ceux qui incarnent la République. La réalité, c'est que vous me posez une question qui m'a été posée tout à l'heure au congrès des maires, et où j'ai été interpellée par un élu qui m'expliquait que dans sa commune, telle direction n'avait pas été prise. Et je lui disais, écoutez, sur les cités éducatives, si dans votre collectivité territoriale, dans votre commune, vous estimez dans votre conseil municipal que c'est pas une bonne mesure à prendre, ou c'est pas une bonne direction, l'État ne peut pas se substituer à tout. On se connaît, on vient du Sud tous les deux. Vous ne pouvez pas incriminer tout le temps l'État de tout. La taxe d'habitation a été compensée, vous le savez. Ça a été voté l'année dernière. Et la réalité, c'est que je fais partie de ces ministres qui ont été comme vous sur ces bancs députés. Ma porte est ouverte à chaque fois, celle de ma collègue Dominique Faure aussi, celle du ministre de l'Intérieur aussi. Vous savez m'interpeller, m'écrire. J'encourage tous les députés de cet hémicycle à le faire parce que vous avez systématiquement une réponse, un oui, un non, une réponse directe et jamais je me dérobe. Et le gouvernement encore moins. Je vous remercie, monsieur le député.
Merci beaucoup, madame la ministre.
Sabrina Agresti-Roubache, donc, qui invite les députés à la saisir très directement s'il y a des problèmes dans les collectivités locales. Léo Valter pour les Insoumis.
Madame la secrétaire d'État à l'enfance, le 1er août 2020, votre prédécesseur annonçait la création d'une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants, centrée sur la question de l'inceste. Le 23 janvier 2021, deux semaines après la parution du livre de Camille Kouchner, Emmanuel Macron s'adressait en ces termes aux victimes. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives enfin explose. Il explose grâce au courage de celles et ceux qui témoignent. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Le 11 mars, la Civise était installée avec une feuille de route pour 2 ans, bientôt 3. Au cours de ces presque 3 années, elle a recueilli près de...
La CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
J'ai attendu ce moment toute ma vie. Pour se confier, il faut avoir confiance. La CIVIS a su devenir cette personne de confiance qui s'incarne pour les victimes, les collectifs, pour le grand public, dans la figure du juge Édouard Durand. Or, depuis plusieurs mois, l'incertitude pèse sur le devenir de la CIVIS. Son mandat sera-t-il prolongé? Sous quelle forme? Et avec qui à sa tête?
Léo Valter, il a 51 ans, il est député des Alpes de Haute-Provence. C'est lui qui a battu Christophe Castaner dans sa circonscription. Il est ancien professeur des écoles, Léo Valter. Il a été directeur d'école primaire et maternelle.
Mais hier, lundi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, alors que la CIVIS présentait son rapport et qu'avait lieu le comité interministériel à l'enfance, on n'en savait pas plus. Madame la secrétaire d'État, confirmez-vous que la CIVIS sera maintenue? Avec quelle feuille de route? Et le juge Durand pourra-t-il poursuivre sa mission, comme c'est le souhait manifeste de l'ensemble des associations et des centaines de personnes réunies hier? Le 23 janvier 2021, Emmanuel Macron concluait par ces mots. On vous écoute, on vous croit, vous ne serez plus jamais seul.
Léo Valter, il est membre de la délégation aux droits de l'enfant et il s'inquiète de l'avenir de cette commission interministérielle, indépendante, sur la question de l'inceste.
Vos promesses seront tenues. Je vous remercie.
Et il rappelle qu'il y a quelques jours, c'était la date anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Léo Valter, nous l'avons dit, je le répète aujourd'hui, le gouvernement souhaite que le travail de la CIVIS continue avec des modalités et une feuille de route renouvelée et centrée sur de nouvelles missions. Nous en présenterons le détail avec le garde des Sceaux dans les toutes prochaines semaines. Il faut dire que nous avons reçu à 5 ministres le rapport de 750 pages et de 82 recommandations vendredi dernier. Je comprends votre impatience, mais vous comprenez aussi qu'il nous faut un peu de temps pour étudier les choses. Ce civisme, vous l'avez dit, c'est le président de la République qui l'a voulu, c'est le président de la République qui l'a soutenu, le gouvernement l'a soutenu depuis qu'elle a été mise en place et le gouvernement l'a écouté. Hier, nous avons présenté tous ensemble, nous étions 12 minutes ministres autour de la première ministre à porter un plan audacieux de lutte contre les violences faites aux enfants dans la suite d'un plan qui avait déjà été conduit depuis 2019. Dans ce plan, énormément de choses ont été reprises, des préconisations de la civisme. C'est vous dire que nous avons écouté la Civise. Nous avons écouté la Civise. Moi, je suis moins écoutée que la Civise, manifestement, parce qu'elle a recueilli des témoignages tout à fait importants qui nous ont permis d'évaluer l'impact de ces violences sur les enfants. C'est grâce à cela que nous pouvons porter un combat collectif qui n'est pas le combat d'un homme, mais qui est le combat d'un gouvernement, qui est le combat d'un parlement, qui doit être le combat de tous les adultes de ce pays pour éradiquer ce fléau. Nous présenterons les modalités et la feuille de route dans les quelques jours. Je comprends votre impatience. Ça fait des millénaires que nous attendons cela. La révolution, elle est en marche. Laissez-nous l'agir avec fermeté. C'est un discours de responsabilité et pas de polémique.
Merci beaucoup.
La révolution est en marche pour éradiquer l'inceste et les violences faites aux enfants. C'est la promesse de la ministre. Perrine Goulet pour le MoDem. Le MoDem, ce sont les députés proches de François Bayrou.
Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, il est de notre devoir en tant que société de veiller à la protection et au bien-être de nos enfants. Ils sont les piliers de notre avenir. Votre ministère et ses agents jouent chaque jour un rôle majeur pour les enfants et leur devenir. Mais une telle politique est forcément interministérielle, tant elle nécessite la mobilisation de tous les ministères. L'éducation nationale, les ministères sociaux, la santé, l'intérieur, la justice bien évidemment, mais également le sport, la culture, l'emploi, l'économie, l'enseignement supérieur. Il faut toute une société pour élever un enfant. Hier, à l'occasion du comité interministériel à l'enfance que vous avez fait autour de Charlotte Caubel, ministre de l'Enfance, et de Elisabeth Borne, première ministre, vous avez participé à la présentation de la réponse du gouvernement en faveur des enfants. Je ne peux que saluer, puisque je le porte depuis de longs mois, votre volonté d'action en faveur d'une véritable éducation au corps, à la sexualité et à la bienveillance. Parmi les réponses que vous avez apportées, il y a nécessairement la place de l'école, qui, dans vos annonces, effectue une véritable révolution. Celle du soutien à la réussite et à l'ambition scolaire des enfants protégés. Quand ces enfants sont protégés, accueillis, car en difficulté familiale ou victimes de violences, l'école doit devenir une bouée à laquelle ils doivent se raccrocher. Or, ce que l'on voit, c'est que 61% des adolescents de 15 ans placés en établissement sont toujours dans un niveau relevant du premier cycle, voire un niveau élémentaire. Que seulement 20% obtiennent un baccalauréat général, sans parler de tous ceux qui quittent le système sans diplôme, avec de fait une promesse de difficile insertion.
Perrine Goulet, elle est députée de la Nièvre, elle a 45 ans, elle est députée du MoDem, elle vient du côté de Nevers, elle a été cadre chez EDF, notamment sur le responsable du système d'information du centre nucléaire de Belleville. Perrine Goulet, elle est importante parce qu'elle est présidente de la délégation aux droits de l'enfant, qui est une nouvelle délégation de l'Assemblée nationale, et donc elle pose une question sur la protection de l'enfance suite à ce comité interministériel qui a été réuni hier. On écoute le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui lui répond. Que fait le gouvernement pour la protection de l'enfance?
La vulnérabilité a plusieurs visages et le rôle de l'éducation nationale, c'est bien d'accompagner tous les enfants et évidemment les plus vulnérables d'entre eux. Vous l'avez dit, nous étions réunis hier autour de la première ministre et de Charlotte Caubel pour ce comité interministériel à l'enfance. Et ce que j'ai eu l'occasion d'y présenter, et nous y avons beaucoup travaillé avec Charlotte Caubel ces derniers mois, c'est la mise en place d'une véritable scolarité protégée pour les enfants, protéger les enfants placés. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une simplification.
Les enfants placés, ce sont des enfants qui sont dans une famille d'accueil.
Pour lutter contre le décrochage scolaire. Et on sait malheureusement que toutes les procédures peuvent entraîner un certain nombre de décrochages et qu'ensuite, c'est des vulnérabilités supplémentaires. Deuxième chose, quand malheureusement le décrochage survient, la mise en place d'un suivi renforcé, notamment en lien avec le CNED, pour permettre à ces enfants, à ces élèves de continuer de poursuivre leur scolarité. Troisième élément, des entretiens d'orientation désormais systématiques mis en place pour tous ces enfants à la fin du collège et à 17 ans qui doivent être systématisés. Et surtout, pour qu'on soit plus efficace, c'est insupportable ce que vous faites. insupportable. Et pour que ce soit plus efficace...
Je ne sais pas qui est la députée qui gueule.
Pour les enfants, des référents désignés pour coordonner l'action de tous les acteurs, des rectorats, des services départementaux, de l'éducation nationale et les services de l'ASE. C'est donc une mise en commun de tous les
acteurs... L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance.
...efficacité en direction de ces enfants, parce que nous le savons et vous l'avez dit, les vulnérabilités peuvent s'ajouter et malheureusement, on le voit, ce sont des enfants qui ont 4 fois plus de risques d'accumuler les retards en primaire, 4 fois plus de risques de décrocher ensuite dans leur scolarité. Et donc, nous devons être encore plus impliqués, encore plus à leur côté pour leur permettre de réussir. Puisque, comme vous l'avez dit, ils ont le droit de réussir à l'école de la République. Ils ont le droit de bâtir leur destin dans l'école de la République. Ils ont le droit d'être ambitieux pour eux-mêmes.
Merci beaucoup,
et nous sommes ambitieux
ministre.
Pour eux.
Merci.
Donc voilà l'échange entre la présidente de la commission de la délégation aux droits de l'enfant, pardon, la délégation aux droits de l'enfant, sur le comité interministériel qui s'est réuni hier.
Madame la présidente, mes chers collègues, Madame
Catherine Jaouen,
chargée des personnes handicapées
pour le RN.
Le 23 novembre 2023 se tiendra la mise en fonction de la plateforme DuoDay que vous avez massivement plébiscitée. Je cite. La promotion de l'emploi des personnes handicapées constitue une des priorités politiques du gouvernement. Vous rappelez également la mise en place de mesures fortes pour accompagner les personnes handicapées vers l'emploi. Mais qu'en est-il au sein même du ministère de l'Éducation nationale ? À l'heure où nous manquons de professeurs, on peut s'interroger sur le fait que l'Éducation nationale ne remplisse pas ses quotas fixés à 6% d'emplois réservés aux personnes handicapées. L'Éducation nationale préfère s'acquitter de pénalités auprès du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées.
Il n'y a pas assez de personnes handicapées qui travaillent pour l'Éducation nationale, donc l'Éducation nationale ne remplit pas ses quotas.
8 millions d'euros, alors que l'Éducation nationale a dépensé seulement 6,3 millions d'euros en frais de fonctionnement pour son personnel handicapé en 2022. Le calcul est simple. 5 fois plus d'argent dépensé dans les pénalités plutôt que dans des investissements concrets. Vous avez fait le choix de pousser les personnes handicapées faire la sortie. J'ai reçu récemment une agrégée, une normalienne, qui suite à une maladie lourde qui a détérioré son état physique, a provoqué un handicap de 50% et elle a donc été orientée vers le CNED. Puis son handicap physique s'est alourdi à 80% et elle reste néanmoins en pleine possession de ses moyens intellectuels et souhaite continuer à enseigner. Alors que la loi de 84 prévoit que le poste de travail d'un fonctionnaire handicapé soit adapté, vous n'en faites rien. Prenant le cas que je vous citais, il aurait été possible de proposer un maintien au CNED, un poste en présentiel adapté ou en distanciel. Elle est mise au rebut, son cas est tranché, mise en retraite anticipée, fin de l'histoire. Comment pouvez-vous donc prétendre, dans le même temps, faire du handicap une priorité nationale et en même temps condamner femmes et hommes qui veulent travailler ?
Catherine Jaouen, elle a 61 ans, elle est députée du Vaucluse pour le Rassemblement national. Elle est avocate au barreau d'Avignon. Catherine Jaouen, c'est la suppléante d'un député qui s'appelle Joris Ebrard. Sauf que Joris Ebrard, quand il a été élu député, il a ensuite été réélu maire de sa ville. Et donc, comme il n'a pas le droit de cumuler les mandats, c'est désormais sa suppléante qui le remplace. On écoute à nouveau Gabriel Attal sur cette question. Sur l'insertion des personnes handicapées dans l'éducation nationale.
D'Europe. Ça lui donne évidemment d'immenses responsabilités, notamment en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que nous sommes aujourd'hui au niveau auquel nous devrions être dans l'éducation nationale s'agissant de l'accueil de personnes en situation de handicap dans le corps enseignant et dans les personnels ? La réponse est non. Nous avons évidemment des agents en situation de handicap. Près de 40 000 au ministère de l'Éducation nationale et je veux leur rendre hommage. Ils sont aux côtés de nos élèves, ils font partie de la communauté éducative, ils apportent tant à notre école et à nos élèves. Mais évidemment, nous devons aller plus loin. Nous devons pouvoir accueillir davantage d'enseignants, de personnels de santé, sociaux, de direction, personnels administratifs en situation de handicap à l'éducation nationale. On y travaille beaucoup avec mon collègue Stanislas Guérini. C'est un objectif transversal dans la fonction publique avec évidemment Fadila Khattabi. Ce que je peux vous dire sur les actions qui sont engagées. D'abord, nous avons développé une politique ambitieuse d'allègement de services et de postes adaptés. Très concrètement, un professeur en situation de handicap peut se voir proposer un service allégé d'un tiers tout en étant rémunéré à temps complet. C'est une possibilité qui existe, qui est déjà offerte à un certain nombre d'enseignants en situation de handicap. Ensuite, nous avons constitué un réseau de conseillers de proximité et mis en place des parcours professionnels en faveur des personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour mieux accompagner leurs évolutions professionnelles. Il y a un plan quinquennal 2023-2027 qui a été constitué pour aller encore plus loin, notamment dans la simplification des démarches administratives. Vous l'avez dit, ça peut être kafkaïen un certain nombre de situations, et je suis très preneur de l'exemple concret que vous avez évoqué pour que je puisse regarder très concrètement ce qui s'est passé et qu'on en tire des enseignements. Il y a aussi beaucoup à faire encore sur la lutte contre les discriminations et l'accueil des personnels en situation de handicap. Nous allons continuer à agir sur ce sujet-là. Vous le voyez, nous ne sommes pas au résultat auquel nous devrions être, mais nous allons continuer à avancer.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Christine Le Nabour pour le groupe Renaissance.
Christine Le Nabour, elle est députée d'Ille-et-Vilaine.
Ma question s'adresse à la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame la ministre, la 27e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a débuté hier avec pour thématique la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Permettez-moi de profiter de cette question pour remercier le ministre Olivier Dussopt et son cabinet pour leur remarquable travail en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap pendant et à l'issue de la Conférence nationale du handicap en lien avec votre ministère. 17 mesures nouvelles ont été énoncées, dont certaines intégrées dans le projet de loi Plein Emploi pour lequel j'ai eu l'honneur d'être co-rapporteur. Ce texte vise à rendre l'environnement professionnel de droit commun accessible, quel que soit le handicap. Il confie au service public de l'emploi l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Il favorise leur orientation professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 19% à 12% depuis 2017. C'est encore trop. Le nombre d'apprentis a été multiplié par 3, c'est mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. Cette semaine est une nouvelle opportunité de sensibiliser la société et les employeurs. Le Duodec qui a lieu ce jeudi est le temps fort de cette semaine et participe à changer le regard sur le handicap. Au cours de cette journée, une entreprise, une collectivité ou une association peut accueillir une personne en situation de handicap et former un duo avec un professionnel volontaire.
Christine Le Nabour, elle a 59 ans, elle est députée d'Ille-et-Vilaine du groupe Renaissance, c'est une ancienne prof d'EPS auprès des jeunes et de détenus en réinsertion. Elle a été professeure de danse également. Christine Le Nabour qui pose à son tour une question sur la 27e édition de la semaine d'insertion des personnes handicapées dans le travail. Je ne sais pas s'il y a des personnes en situation de handicap dans le chat.
Je vous remercie.
On écoute la réponse
Merci
du gouvernement.
Beaucoup, ma chère.
Elle est vice-présidente, Christine Le Nabour, du groupe d'études sur le handicap et l'inclusion, justement.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Le Nabour, je tiens tout d'abord à saluer l'ensemble de votre travail sur le sujet. Vous l'avez rappelé, l'importance de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées que nous avons inaugurée hier avec le ministre Olivier Dussopt et au cours de laquelle a lieu cette année effectivement le Duodec. J'en profite pour saluer d'ailleurs la mobilisation de l'ensemble des députés pour la 6e édition de cet événement qui est un événement effectivement très important et qui est un franc succès. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 26 360 duos sont confirmés pour ce jeudi, soit 27% de plus que l'année dernière. Donc vraiment, c'est un succès. L'année dernière, 23% des candidats qui sont passés par le dispositif ont eu une opportunité professionnelle. Cette journée est effectivement essentielle.
Vous avez participé au Duo Days.
Ça a changé le regard.
23% des personnes qui sont passées ont trouvé une offre d'emploi derrière.
Mon collègue Olivier Dussopt, avec qui je travaille beaucoup, vous l'avez compris, nous avons porté au travers du projet de loi pour le plein emploi que vous avez voté donc la semaine dernière, des mesures concrètes pour renforcer l'accompagnement et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Désormais, ce qui prévaut, c'est le droit commun, et j'insiste là-dessus. Elles seront toutes accompagnées par le service public de l'emploi pour élaborer leurs projets professionnels, tout en favorisant davantage les passerelles vers le milieu ordinaire. Grâce à cette politique ambitieuse, nous aidons nos entreprises à se tourner vers de nouvelles candidatures qui correspondent aux compétences qu'elles recherchent, notamment dans les métiers en tension. On a envie de leur dire les talents sont là, il suffit de regarder autour de soi. Enfin, l'insertion dans l'emploi passe aussi par plus d'accessibilité, notamment numérique. Demain, au Conseil des ministres, le gouvernement
Merci.
Présentera la ratification des ordonnances relatives à la mise en accessibilité des
Merci,
sites
Madame la ministre.
Du service public.
Merci beaucoup.
Il va y avoir une amélioration de l'accessibilité des Louis sites Boyard, Internet du service public pour les personnes porteuses de handicap. Louis Boyard, pour les Insoumis.
Madame la Présidente, ce vendredi, à Villecresnes, dans ma circonscription, un homme a failli mourir. Je l'ai eu au téléphone hier et voici ce qu'il m'a dit. Avant même de me parler de la souffrance et du traumatisme d'avoir reçu un coup de cutter de 15 cm dans sa gorge, et après avoir subi des insultes racistes, il m'a dit « Cela fait 3 jours que j'ai subi un crime raciste et que personne ne parle de moi. Mais si jamais moi, Mourad, j'avais été l'agresseur, alors BFM TV et CNews auraient déjà été en bas de ma maison. » Qu'est-ce que cela dit de l'ambiance qui règne actuellement dans notre pays ? Il ne se passe pas une journée sans que sur les débats télévisés, il soit sous-entendu qu'il y aurait trop de musulmans dans notre pays ou qu'ils seraient incompatibles avec la République. Il ne se passe pas une année sans que vos lois sur l'immigration stigmatisent les personnes noires et arabes et les rendent responsables de tous les problèmes dans notre pays. Voilà des décennies que votre classe politique épouse les thèses du Rassemblement national et stigmatise nos concitoyennes et nos concitoyens qui vivent en France, travaillent en France et quel que soit l'endroit où ils sont nés, ont le droit à l'égalité en France. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous ai entendu dire que vous attendiez de connaître la nationalité des personnes qui ont commis un meurtre à Saint-Paul.
Louis Boyard, il a 23 ans, il est député du Val-de-Marne pour la France Insoumise, c'est un ancien syndicaliste lycéen. Il a été président de l'Union Nationale Lycéenne entre 2018 et 2019 et il pose une question sur le racisme dans la société.
Les préjugés xénophobes et les guerres de religion, vous le faites par électoralisme, parfois par conviction. Bientôt arrive la loi immigration, alors je le répète, vos mots auront des conséquences. Vos votes auront des conséquences. Quel est votre but, ministre, collègue ? Rassembler le pays ou le diviser ? Et si vous êtes prêt à le diviser, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Dans l'abject et dans la violence.
Une question assez générale. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ?
La parole est à monsieur Gérald Darmanin.
Dans l'abject et dans l'indifférence, c'est ça ? Ou le racisme, je ne sais plus.
Merci madame.
On écoute le ministre de l'Intérieur qui lui répond sur cette question assez large sur la question du racisme.
En effet, le 17 novembre à 14h à Villecresne, dans le Val-de-Marne, dans votre département d'élection, un homme a été agressé et au nom d'insultes racistes, sale bougnoule, c'est ce qui a été dit et je veux ici bien sûr non seulement les condamner, mais je l'ai fait publiquement. Vous avez sans doute oublié de le dire dans votre intervention. Comme je le fais à chaque fois que l'on touche un Français, un être humain sur le territoire national. Et contrairement à vous, je n'essentialise pas. Je suis là pour protéger toutes les personnes, comme tous les policiers et les gendarmes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur nationalité. L'auteur est en effet un Français de 76 ans, multirécidiviste, monsieur le député, dégradation, refus d'obtempérer, outrage à policiers, injures publiques en raison de la race ou de la religion. Et il a été interpellé par les effectifs courageux de la BAC que vous voulez supprimer par ailleurs. Et je voudrais ici remercier la police nationale.
Donc, le suspect a été interpellé dans le cadre de cette agression qui a eu lieu à Villecresne dans le Val-de-Marne, dans la circonscription de Louis Boyard.
Alors oui, mesdames et messieurs les députés, si l'on pouvait regarder les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, ni les définir par leur race, par leur religion supposée, par leur prénom, si on pouvait simplement regarder ceux qui respectent les règles de la République à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, si on pouvait attaquer les récidivistes à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, si on pouvait, du même mot, monsieur le député, remercier les policiers quand ils arrêtent ceux qui attaquent les juifs, les musulmans, les chrétiens. Alors oui, monsieur le député, on aura apaisé la situation parce qu'il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes qui doivent être condamnés par ce qu'ils font et il n'y a que des Français qui sont reconnus par leur mérite.
Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur Boyard.
Applaudissements sur les bancs de la majorité.
Vous voulez apaiser le pays ? Cessez de vous comporter comme un ministre du Front National.
Élu Boyard, donc, qui n'en démord pas et qui accuse le gouvernement de jouer le jeu du Rassemblement National.
La parole...
On entend des huées sur les bancs du Rassemblement National.
La parole est
et de la majorité, visiblement.
Laurent Panifous pour le groupe Lyot.
Laurent Panifous.
S'il vous plaît, on écoute l'orateur.
Le député de l'Ariège.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Panifous, vous avez la parole.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Soignants, personnes âgées et familles nous alertent quotidiennement sur la crise majeure que traversent nos EHPAD. Le Président de la République lui-même, au cours des 2 précédentes campagnes présidentielles, avait clairement affiché ses ambitions pour créer les conditions d'un accompagnement digne de nos aînés, que ce soit à domicile ou en établissement. Il s'est alors engagé à porter une réforme ambitieuse à la hauteur des ententes des Françaises et des Français. Une des mesures importantes affirmées par le président de la République lui-même était la création de 50 000 postes de soignants en EHPAD avant la fin de ce quinquennat en 2027. C'est en effet une réponse très concrète pour celles et ceux qui vivent en EHPAD, pour celles et ceux qui y travaillent. Les conditions de travail en EHPAD sont en effet très difficiles. L'accompagnement
les EHPAD, je rappelle, ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
Nos concitoyens. C'est pour cela que l'engagement de créer en moyenne entre 6 et 7 postes soit de soignants par EHPAD est pertinent et nécessaire. Alors il faut pour cela former plus de soignants, bien sûr, mais il faut aussi redonner confiance à toutes ces aides-soignantes, toutes ces infirmières qui ont quitté leur métier parce qu'il était trop dur, épuisées de ne pouvoir accompagner ou soigner nos aînés dans la dignité.
Laurent Panifous, c'est un député dissident du Parti Socialiste qui siège au sein du groupe Liot. Il est proche de Carole Delga et de Bernard Cazeneuve. Laurent Panifous, il a 46 ans, il est député de l'Ariège, du côté de la ville de Pamiers. C'est un ancien directeur d'EHPAD, en l'occurrence, donc il sait très bien de quoi il parle. Il est d'ailleurs le vice-président du groupe d'études sur la fin de vie et le vice-président de l'autre groupe d'études sur la longévité et l'adaptation de la société au vieillissement. Et donc, il pose une question spécifiquement sur la politique du grand âge du gouvernement.
Que l'engagement du président de la République sera respecté, que ces 50 000 postes promis seront bien créés avant la fin du quinquennat. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
On écoute donc la ministre des Solidarités qui s'occupe de ce dossier.
Merci, Madame la Présidente. Aurore Berger. Monsieur les députés, Monsieur le député Panifous, vous avez parlé de choc de confiance, donc je vais reprendre vos termes. Parce que c'est bien de cela dont nous avons besoin, en effet, dans notre pays, face au défi démographique qui est devant nous, et sortir sans doute d'un déni individuel et collectif sur le sujet. Parce qu'en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Et c'est donc toute notre société qui doit aujourd'hui s'y adapter. C'est le sens de la stratégie interministérielle que nous avons pu collectivement présenter. C'est le sens de la proposition de loi. On a repris nos débats hier dans un climat qui était, je crois, extrêmement précieux en termes de qualité de travail. Et c'est le sens aussi, évidemment, de l'engagement que j'ai pris avec la Première ministre sur une loi de programmation sur le grand âge. Je crois que c'était quelque chose d'attendu, évidemment, par les parlementaires. Vous le demandiez et vous aviez raison de le demander, attendu par les professionnels. Et cette loi de programmation, elle doit justement permettre de tracer des trajectoires de financement, évidemment, sur la question du grand âge, et des trajectoires en termes de recrutement des professionnels. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les professionnels, ils sont dans une forme de perte de sens par rapport à leur métier. Ce n'est pas les vocations qui manquent, c'est le fait de la manière avec laquelle ce métier peut être exercé, ces métiers peuvent être exercés, qui font qu'on est dans un risque de cercle vicieux où finalement, pénurie de professionnels engendre la pénurie de professionnels et met à mal à la fois la qualité de la prise en charge des patients, des bénéficiaires, des résidents, mais surtout la qualité du travail des professionnels. C'est pour ça que nous devons tout faire pour tenir la trajectoire que nous avons annoncée de 50 000 soignants supplémentaires, parce que c'est notre responsabilité pour garantir que les EHPAD puissent fonctionner et qu'au-delà des EHPAD, 700 000 personnes qui y sont accompagnées, le virage domiciliaire réellement puisse être pris en compte et tout le parcours résidentiel. C'est pour cela que nous devons faire cette loi de programmation, c'est pour cela que nous devons renforcer les moyens, c'est pour cela que nous devons avoir une trajectoire de financement, parce que nous devons en effet tenir la trajectoire telle qu'elle a été annoncée par le président de la République.
Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Michael Esseo pour le groupe Renaissance.
Michael Esseo, député de Wallis et Futuna.
Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer sur l'enclavement des habitants de Wallis et Futuna. Ils sont victimes de problèmes majeurs de communication, tout spécialement les habitants de Futuna. L'avion est le seul moyen de sortir de chez eux. Nos liaisons sont aléatoires, irrégulières, difficilement programmables. Il faut tenir compte des réquisitions qui, à tout moment, peuvent intervenir. Les déplacements des malades, des étudiants, des professionnels, des administratifs sont périlleux. Et ceux de mes collègues qui viennent jusqu'à chez nous le constatent immanquablement. Il faut réserver 2 mois à l'avance pour espérer avoir une place. Le fret aérien est d'une capacité ridicule, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Comment les commerçants peuvent-ils importer? Comment les producteurs peuvent-ils exporter? Pourquoi ne sommes-nous pas desservis de vol cargo? Dans quelques jours, le prestataire de la desserte Interil va changer. Un seul a répondu à l'appel d'offres tant l'état des aéronefs laisse à désirer. L'inquiétude est générale quant à la réalisation de ces services indispensables aux habitants.
Michael Essao, il a 51 ans, il est député Renaissance de Wallis et Futuna, il est fonctionnaire, c'est un ancien agent d'entretien au collège. Et il pose une question sur l'enclavement de Wallis et Futuna. Il n'y a que l'avion qui permet d'arriver et de partir de Wallis et Futuna.
Sur les moyens de l'État pour désenclaver Wallis et Futuna. Nous avons besoin de services adaptés. De même pour les secours terrestres et maritimes. Nous venons de déplorer la disparition de deux pêcheurs, faute de moyens d'intervention. La surveillance des eaux nationales a besoin plus que jamais des outils adaptés en proximité. Le gouvernement est-il prêt à mettre en place une vraie politique de désenclavement aérien et maritime nécessaire à la survie de ce territoire, de mener une étude sur les moyens à mettre en place comme une liaison maritime passagère et marchandises, ou encore un hélicoptère à l'image de ce qui se passe en Polynésie ou aux îles Féroé, et comme des études récentes de collègues.
Wallis et Futuna, ce sont deux îles qui sont séparées l'une de l'autre de 230 km. Et c'est un archipel qui est entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.
Merci Madame la Présidente.
On écoute Philippe Vigier, le ministre de l'Outre-mer, qui répond.
Le député Michael Essello. Merci de votre question qui permet d'abord de rappeler tout ce que fait le gouvernement pour aider le transport aérien. Pour aider deux compagnies, Corsair et Aerostral, plus de 300 millions d'euros ont été apportés ces trois dernières années. Deuxièmement, je permets de vous dire que concernant la desserte de Wallis et Futuna, vous savez très bien qu'il y a une délégation de services publics, laquelle délégation était attribuée à Air Calin. Ça changera au 1er janvier 2024. C'est Air Loyauté qui va avoir cette délégation de services publics. La Direction générale de l'aviation civile, la Direction des Outre-mer sera là pour accompagner la transition entre les deux.
Donc il y a une nouvelle compagnie aérienne qui va récupérer une délégation.
On finance 50%, 2 700 000 euros pour cette délégation des services publics. Donc vous voyez que Wallis et Futuna n'est pas oublié. Ensuite, vous parlez du transport maritime. Vous le savez, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger sur cette question, et merci de l'intérêt que vous portez à ce problème du transport maritime pour les habitants de Wallis, de Futuna, à la fois pour les passagers, mais également pour le fret. Une étude est en cours, qui est financée intégralement par le ministère, 140 000 euros, et les résultats de cette étude, nous les connaîtrons à la fin du premier trimestre 2024. Donc vous voyez que pour le transport aérien, pour le transport maritime, nous sommes présents. Et j'en profite pour rappeler qu'au titre de la continuité territoriale, le soutien passera de 70 millions à 93 millions d'euros, en 2024, bref, pour payer une grande partie des billets d'avion pour celles et ceux qui rentrent de l'Hexagone vers les territoires ultramarins, avec une annonce particulière pour les jeunes, pour les étudiants qui, dès les vacances de Noël, qu'ils soient boursiers ou pas boursiers, pourront revenir dans leur pays avec un billet totalement pris en charge. Donc, sur toutes ces questions.
Donc, un billet d'avion gratuit pour les jeunes étudiants dès ce Noël qui veulent aller retourner fêter Noël en famille.
Pour les Républicains, je voudrais lui rendre hommage parce que c'est probablement sa dernière question au gouvernement. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes engagé au service de cette Assemblée nationale et au service de nos compatriotes. Et donc, au nom de l'ensemble de la représentation nationale, je voudrais vous remercier, monsieur le député, pour votre engagement sans faille au service des Français au sein de cette Assemblée nationale.
Dino Cinieri, donc 21 ans de mandat. Il est applaudi chaleureusement par ses collègues députés.
Merci,
c'est probablement sa dernière question au gouvernement. Il a annoncé qu'il démissionnerait de son mandat.
Je profite, mes chers collègues, de cette dernière question après plus de 21 ans sur ces bancs pour vous remercier ainsi que chacun de mes collègues pour le travail accompli ensemble, de jour et parfois de nuit, le plus souvent avec beaucoup de respect, malgré nos divergences. Je mesure pleinement la chance qui a été la mienne de siéger au sein de cette noble assemblée qui résonne encore avec des voix de Clémenceau, de Jaurès, de Jacques Chirac et tant d'autres. Cette complémentarité des travaux à Paris et des engagements sur le terrain permet de toujours chercher le meilleur pour notre pays et ce qui doit nous animer. Je tiens à remercier aussi tous les fonctionnaires, les collaborateurs, tous ceux qui travaillent discrètement dans cette belle maison où j'ai été honoré de servir mes concitoyens du département de la Loire.
Il est député de la Loire, donc c'est un ancien ouvrier métallurgiste, Dino Cinieri, il a 68 ans.
Le ministre de l'Intérieur. Et j'associe à ma question
la future députée, Madame Sylvie Bonnet, bien sûr, Jean Piatet et l'ensemble de mon groupe LR. C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je souhaite vous alerter, Monsieur le Ministre, sur l'octroi des trimestres supplémentaires pour les sapeurs-pompiers volontaires pour le calcul de leur retraite. Cette bonification inscrite à l'article 24 de la loi du 14 avril 2023 est une reconnaissance importante de l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires au service de la collectivité et, Monsieur le Ministre, permettrait aussi de susciter des vocations, car je veux le rappeler, ils sont indispensables dans nos territoires et je tiens à leur rendre un hommage particulier cet après-midi. Un amendement sénatorial adopté prévoyait 3 trimestres après 10 ans d'ancienneté, complété d'un trimestre tous les 5 ans, mais il a été supprimé en commission mixte paritaire et la bonification a été renvoyée à un décret du Conseil d'État. Or, à ce jour, le décret n'a toujours pas été publié au journal officiel. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, nous dire quand ce décret sera pris et nous confirmer qu'il fixera une majoration de 3 trimestres après 10 ans d'ancienneté, complétée d'un trimestre tous les 5 ans. Et je voudrais avoir une pensée pour mon ami Hubert Wulfranc.
Hubert Wulfranc.
Merci beaucoup.
Qui est un ancien député. Hubert Wulfranc, qui est un ancien député communiste.
Monsieur Gérald Darmanin.
Je ne sais pas s'il l'est toujours, Hubert Wulfranc, je ne crois pas.
Des Outre-mer.
Merci. Alors, le ministre de l'Intérieur qui va lui répondre sur ses progressions de carrière des fonctionnaires.
Monsieur le député de l'Innocinerie, permettez-moi également, en mon nom personnel et au nom du gouvernement, de vous remercier pour le travail que vous avez apporté au sein de l'Assemblée nationale. Et j'ai été témoin, pour être votre collègue et aussi comme ministre, de vos apports, même en cas de divergence, toujours extrêmement sérieux et dans une circonscription qui vous a réélu, très populaire et dont vous êtes, j'en suis toujours certain, l'avocat. Et évidemment, permettez-moi d'adresser à votre suppléante qui va siéger ici nos vœux de bienvenue dans quelques jours. Peut-être vous dire, monsieur le député, que je connais votre engagement pour les sapeurs-pompiers depuis longtemps, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Et je veux ici
Dino
vous.
Dino Cinieri, il était vice-président du groupe d'études sur les sapeurs-pompiers, la sécurité civile et la gestion des crises.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit en effet des trimestres supplémentaires dans le cadre que vous avez évoqué pour les sapeurs-pompiers. Et vous dire qu'évidemment, ce décret va être pris. Le ministre en charge du travail, en charge des retraites et moi-même pour que dans les semaines qui viennent, j'espère d'ici le 31 décembre, monsieur le député, ce décret puisse sortir. Il va accompagner énormément de dispositions favorables aux sapeurs-pompiers que vous avez continuellement portées et qui ont été, je crois, acceptées à la fois dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, dans la loi Matras et dans les dernières annonces. L'exonération des charges pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, c'était une revendication aussi très ancienne pour la vocation de nos sapeurs-pompiers. La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qui aujourd'hui n'est pas très adaptée et vous l'avez souvent portée, mais également la consolidation de notre modèle de volontariat et de professionnalisme qui cohabitent dans nos territoires, singulièrement dans les territoires soit urbains et ruraux, qui correspondent par exemple au département de la Loire que vous avez représenté si longtemps à l'Assemblée nationale. C'est donc plein, je crois, de voir.
Ah merde, c'est la fin de la rediffusion. De toute façon, c'était la fin de la réponse. Et comme je vous le disais, c'est la fin de la séance de questions au gouvernement. Désolé, c'est des. Putain, ils ont coupé net. Hein. Ils ont coupé net avant la fin. C'est la fin de cette séance de questions au gouvernement. Je vous rappelle que à partir de cette semaine, il y a un changement dans l'organisation des questions au gouvernement. Il y a une séance le mardi qui dure jusqu'à 16h15. Et donc, c'est 1h15 seulement de séance. Et il y a une deuxième séance qui aura lieu demain, le mercredi, à partir de 14h, donc juste après le Conseil des ministres. Ça sert aux députés à poser des questions au gouvernement et notamment à la Première ministre Elisabeth Borne sur la ligne de son gouvernement, juste après la réunion du Conseil des ministres. Donc, à partir de maintenant et jusqu'à février prochain, on passe sur un système de deux séances par semaine, une le mardi, une le mercredi. J'espère que ça vous a plu, cette séance de questions au gouvernement. On a beaucoup parlé, de la mort de ce jeune Nicolas qui a été assassiné dans la Drôme, une question sur l'insécurité. On a beaucoup parlé aussi de l'enfance à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant et du comité interministériel sur la question de l'enfance qui s'est réuni hier, si je ne dis pas de bêtises. J'ai dit quoi ? J'ai dit Nicolas, pardon, Thomas, il s'appelait Thomas, excusez-moi, le jeune qui a été assassiné, il s'appelait Thomas, pas Nicolas, 16 ans, assassiné dans la Drôme. Donc voilà, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées là-dessus, beaucoup de questions sur la politique de l'enfance. Non, je sais pas, on a parlé de beaucoup de choses. Hein. Regardez, elles sont là, hop là. Ça, c'était les questions qui ont été abordées aujourd'hui. On a parlé du handicap, ouais, on a parlé du handicap parce qu'il y avait le comité interministériel, je crois, qui s'est réuni. Il y avait la CIVIS aussi sur la fin de vie. Pas mal de questions sociétales aujourd'hui, du coup, dans cette séance de questions au gouvernement. C'était assez intéressant, la politique du grand âge. On a parlé des élus locaux aussi, bah oui, à l'occasion de l'ouverture du congrès des maires de France qui se tient en ce moment. J'avais jamais regardé ces séances, franchement, c'est hyper intéressant. Et bah écoute, bienvenue à toi. Si tu n'es pas habitué à suivre la politique, sois le bienvenu sur cette chaîne, elle est faite pour ça. J'espère que ça t'a plu, enfin que ça t'a plu, aussi plaisant que puisse être la politique. Deux séances de questions, ça veut dire deux fois plus de Jean Massier du coup. Ouais, ça veut dire deux fois plus de séances sur ma chaîne, ouais, ouais, ouais. J'espère que ça vous a plu, ouais, cette séance. C'était intéressant. C'était quoi la question sur la lutte contre l'inceste ? Eh bah, la question est dans ta question. C'était où est-ce qu'on en est dans la lutte contre l'inceste ? La CIVIS notamment. Est-ce que ça va être conduit ? Pense quand même à te reposer gros. Ouais, je sais, il faut que j'essaie de me reposer, surtout en ce moment. Demain, ce sera que des questions à l'attention de Borne. J'ai cru comprendre que la séance du mercredi serait essentiellement, peut-être pas complètement, consacrée à des questions à la Première Ministre. Ça donne envie d'assister à une séance, mais j'imagine que c'est impossible ou encadré. C'est tout à fait possible et c'est pas plus encadré que ça. Si tu veux participer à une séance, si tu veux assister à une séance à l'Assemblée nationale, il faut que tu t'inscrives sur le site internet de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a eu une question au gouvernement qui mérite le Game of the Year Award ? Ou bien BG3 fait, le consensus imparti. Je sais pas. Elle va prendre un Doliprane avant d'arriver. Bah écoute, ça va peut-être être un espèce de grand oral de la Première Ministre qui va répondre à des questions qui sont posées par les différents groupes politiques. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais ça ressemblera peut-être à ça. Est-ce que tu streams la séance de questions demain ? Oui, je viens de le dire, oui. Est-ce que ça vous a intéressé ? Sur place, tu n'auras pas les petits commentaires de gens qui te permettent de tout décrypter. Eh oui, malheureusement. Il n'y aura pas mes commentaires si tu vas sur place. Mais je vous invite quand même à aller assister à une séance de l'Assemblée nationale. Si vous en avez l'occasion un jour, n'hésitez pas à le faire, c'est intéressant. Vous pouvez aussi assister à une séance de votre conseil municipal, conseil départemental, conseil régional. C'est ouvert au public, il suffit de s'inscrire. Et c'est toujours intéressant. C'est pas toujours facile à comprendre. Alors évidemment, si vous ne faites pas partie du landerneau politique, vous risquez d'être un petit peu paumé si vous débarquez dans votre conseil municipal. Mais n'hésitez pas à faire quelques recherches sur Internet avant. Est-ce qu'on peut assister à distance, genre via Zoom, si on est sur Paris ? Alors si tu n'es pas à Paris, tu peux assister à la séance des questions au gouvernement en regardant ma chaîne Twitch, par exemple. J'adore suivre, mais j'en sors toujours un brin irrité. La politique, c'est pas fait pour être plaisant, hein. C'est normal, la politique ça provoque des émotions. Au Parlement européen aussi, pour ceux qui sont dans le coin de Strasbourg. Si vous habitez à Strasbourg ou que vous êtes dans le coin, vous pouvez aller assister à une séance au Parlement européen, ouais. Le bronze de l'Assemblée nationale est magnifique, d'accord. Il y a des tas de mairies qui diffusent en live. Il y a beaucoup de conseils municipaux qui sont diffusés en live, ouais. Au pire, Jean ouvre un Zoom et diffuse ta chaîne dessus, MDR. Bah ouais, MDR. Je viens de Landerneau et je vais me faire un stage avec la députée. Pour la première fois, je vais voir une séance de questions au gouvernement qui ne sera pas commentée par toi. Ah, c'est cool ça, félicitations. Tu commences un stage auprès de ta députée ? Eh bah c'est cool. Ce serait bien que les émotions suscitées ne soient pas négatives. Ah bah pour ça, il faut s'engager en politique. Il faut faire des campagnes électorales et il faut gagner des élections. Rappel important, en tant que citoyen, vous n'êtes pas autorisé à prendre la parole lors de ces rassemblements, conseil municipal, séance, conseil départemental. Ah oui, assister à une séance, ça ne veut pas dire participer à la séance, ça veut dire assister à la séance. Vous venez en tant que spectateur. C'est à quelle heure demain du coup ? C'est à 14h que commence la séance, donc moi je vais commencer mon stream vers 13h je pense. 13h, 13h30. Question peut-être stupide, mais pourquoi on ne peut pas voir le reste de la séance alors que celle-ci n'est pas clôturée ? Tu peux aller sur le site internet de l'Assemblée nationale pour suivre le reste des travaux si tu veux. Si tu veux continuer à regarder, moi je m'arrête là, mais si toi tu veux continuer à regarder, tu peux aller sur le site internet de l'Assemblée nationale. Bon, moi je trouve ça cool en tout cas que la séance soit réduite, que ça ne dure qu'une heure et quart plutôt que deux heures et quart. C'était intéressant les questions qu'on avait, mais pas besoin de faire une séance beaucoup plus longue que ça. Une heure, ça suffit. Qu'est-ce que tu faisais avant la politique ? J'étais au lycée. J'étais militant associatif. Si ça t'intéresse, tu peux faire point d'exclamation FAQ dans le chat et tu peux cliquer sur la FAQ où je réponds à toutes ces questions. C'est plus digeste. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est plus digeste. Il y a plus de rythme, c'est plus digeste, c'est plus pratique. Non, moi j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça intéressant, ouais. Est-ce que tu penses que ça va jouer sur le taux de présence à l'Assemblée nationale ? Attention, ne confondez pas l'Assemblée nationale avec l'hémicycle de la séance publique de l'Assemblée nationale. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y aura plus de monde dans l'hémicycle ? Oui, je pense. Est-ce que tu vas faire un stream pour le bilan du Conseil des ministres pour préparer les questions au gouvernement ? Je pense pas, non. Je pense pas. Les longues séances avaient tendance à pas mal tourner en boucle sur certaines questions. Après, c'est les sujets d'actualité. Hein. C'est normal qu'il y ait plusieurs députés de groupes différents qui abordent le même sujet d'actualité. Vous entendez bien qu'ils ne disent pas exactement la même chose. L'Assemblée a-t-elle encore une utilité ? Alors, ça dépend. C'est quoi l'utilité, selon toi, d'une Assemblée nationale ? Dans une démocratie parlementaire, à quoi sert le Parlement ? En l'occurrence, en France et sous la Ve République, l'Assemblée nationale, elle sert à voter les lois, à contrôler l'action du gouvernement, comme vous venez d'en voir un exemple, et à évaluer les politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, ça se passe notamment par les missions d'information, par les commissions d'enquête, par les rapports parlementaires, par le travail législatif aussi, tout simplement. Rien à voir, mais comment fonctionne le scrutin proportionnel ? Alors ça dépend des scrutins proportionnels, mais le scrutin proportionnel, a priori, ça envoie le nombre d'élus proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont, à leur taux de nombre de voix qu'ils ont obtenu lors du tour. Par exemple, les élections européennes sont des élections au scrutin proportionnel. Les députés sont envoyés au Parlement européen à la proportion du nombre de voix qu'ils ont obtenu au cours du scrutin. Est-ce que la Ve République te convient ? Est-ce qu'elle est la meilleure ? On s'en fout de mon opinion, elle n'est pas très importante, mon opinion, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est la meilleure ? J'en sais pas, ça dépend de toi, ce que tu juges être important pour une République. La Ve République, elle a été pensée en 1958, elle est entrée en vigueur, elle a été modifiée à plusieurs reprises, la Constitution a été changée sur pas mal de points différents, plus ou moins importants. Et aujourd'hui, on est dans le système qu'on a actuellement, et c'est un système qui peut te convenir ou ne pas te convenir, mais ça dépend de toi, ça dépend de tes opinions. Si tu accordes beaucoup d'importance à l'efficacité gouvernementale, alors la Ve République fonctionne bien. Si tu accordes beaucoup d'importance au parlementarisme, alors c'est peut-être pas la meilleure des républiques parlementaires. Les 49.3 en boucle, c'est un peu pour clore le débat. Les 49.3 ne sont utilisés jusqu'à présent que sur les textes budgétaires. Il n'y a pas de 49.3 sur les autres lois qui sont votées. D'ailleurs, c'est ce que disait Olivier Marleix quand on l'a invité sur le plateau de Baxit. Il nous expliquait que le gouvernement ne va au vote que s'il est sûr d'avoir une majorité. Ce qui est assez logique, hein, c'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Tu ne t'amuses pas à envoyer au vote un texte sur lequel tu n'es pas sûr d'avoir une majorité. C'est quoi la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale ? Le Sénat et l'Assemblée nationale ont le même rôle, c'est-à-dire le triptyque que je vous ai expliqué, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques, sauf que le Sénat n'est pas élu de la même manière que l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont élus pour un scrutin indirect, ils sont élus par les grands électeurs que sont les élus locaux. Donc le Sénat représente les collectivités locales, alors que les députés sont élus au suffrage universel direct, donc ils représentent directement le peuple. Du coup, il sert à quoi le vote si on ne vote que si on est sûr que ça passe ? Bah, il sert à valider que c'est bien la position majoritaire de la représentation nationale. aucun intérêt à streamer les assemblées du Sénat du coup. Si, c'est intéressant, mais moi, je le fais pas sur ma chaîne parce que j'ai déjà beaucoup de travail. Mais si vous voulez suivre le Sénat, vous pouvez aller sur le site internet du Sénat. Vous avez un portail vidéo et vous pouvez suivre les travaux de vos sénateurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Un texte où le gouvernement n'est pas sûr d'avoir la majorité, le principe de la démocratie, c'est pas justement de débattre et de voter. Si, justement. Si le gouvernement n'est pas sûr d'avoir la majorité, qu'est-ce qu'il fait ? Il débat, il modifie son texte de manière à avoir la majorité. C'est ça le travail parlementaire. Et c'est ce qu'est probablement en train de faire le gouvernement sur la loi immigration. Elisabeth Borne, la première ministre, l'a dit, elle ne souhaite pas avoir recours au 49-3 sur la loi immigration, elle préférerait éviter d'avoir recours au 49-3. Donc pour éviter d'avoir recours au 49-3, elle va négocier avec les Républicains pour essayer de trouver un accord avec eux. Le problème, c'est que les Républicains, comme ils sont en position de force, ils essayent de faire monter les enchères, et donc ils demandent par exemple un référendum sur l'immigration. Sauf qu'on a bien vu vendredi dernier aux rencontres de Saint-Denis que le président de la République a estimé qu'on ne pourra pas faire un référendum sur l'immigration parce que pour ça il faudrait changer la constitution et qu'il n'y a pas de majorité actuellement pour changer la constitution. On va encore avoir une énième loi immigration qui ne changera rien in fine. Ça peut être ton point de vue si tu veux, mais la suppression de l'AME, moi je considère que c'est un changement important. Le durcissement des conditions d'obtention de la nationalité française, je considère que c'est un changement important. Mais on peut ne pas être d'accord là-dessus. La loi immigration qui a été votée là par le Sénat en première lecture, c'est une loi importante. Il y a beaucoup de changements dedans, il y a beaucoup d'articles. Il y a un raccourcissement des procédures pour les demandeurs d'asile, il y a plus d'efficacité pour l'effectivité des obligations de quitter le territoire français, les OQTF. En première lecture, oui, mais typiquement, l'AME, je pense que ça va sauter. Je ne sais pas ce qu'est en train de négocier le gouvernement avec les Républicains. Peut-être que ça ne changera rien pour les Français, en fait, ce qui pose question sur l'objectif de la loi. C'est-à-dire que non, ça changera rien si t'es français, que t'as la nationalité française et que t'as des papiers, ça va rien changer pour toi puisque c'est une loi sur l'immigration. Si t'es pas immigré, ça te concerne pas. C'est quoi l'AME ? L'AME, c'est l'aide médicale d'État. C'est un budget spécialement alloué pour les soins en matière de santé, donc des personnes sans papiers, qui même sans avoir des papiers peuvent bénéficier d'un certain nombre de soins en France. C'est financé par cette aide médicale d'État. Ça me concerne si je suis française, vu que c'est une loi de mon pays. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, moi je suis comme toi, hein. Je considère que ça me concerne. Je suis pas un étranger, je suis pas un étranger en situation irrégulière, je suis pas immigré non plus, mais cette loi sur l'immigration me concerne. Qui sont les prochains invités politiques de Backseat ? On les définit avant les émissions Backseat. Les émissions Backseat, c'est des émissions d'actualité politique. Donc nos invités politiques dépendent de l'actualité politique. Donc on définit nos invités. Je n'ai pas la liste à l'avance des prochains invités, des prochaines émissions Backseat. Là, ce sera annoncé aujourd'hui, je crois, à 18h. N'hésitez pas à suivre sur Instagram. Et cette émission, l'émission Backseat de cette semaine sera en partenariat avec France Digital. On va faire une émission spéciale en direct d'un événement qui s'appelle l'Impact Days, qui est un événement qui met en lumière des entreprises innovantes, des startups, qui ont un impact particulier en domaine environnemental, sociétal, etc. Social, plus que sociétal d'ailleurs. Je respecte tellement ta patience. Mais je te remercie, Val, ça fait plaisir. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Moi, le but de ma chaîne, c'est de rendre la politique plus accessible. Donc, si je peux vous rendre la politique plus accessible en répondant à vos questions, je le fais avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu penses de l'argument qui dit que Backseat se différencie pas assez de la télé? Je me moque de la télévision, je ne la regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Donc j'en sais rien, je m'en fous. Moi, je fais la meilleure émission que je peux. Et s'il y en a qui trouvent que ça ressemble trop à de la télévision, bah, j'en suis désolé pour eux, mais moi, je continue à faire mon émission parce qu'elle me plaît. C'est grâce à ta chaîne que je me suis lié à lire les comptes rendus du bureau communautaire de ma ville, donc merci. Bah, j'en suis très content. Félicitations. Merci, OK là-haut, pour ton abonnement, pour les 5 subs offerts au chat. Merci. On se met une petite musique.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat, OK là-haut. C'est très généreux de ta part. Merci à toi. Est-ce que Jean-Luc sera invité bientôt ? Sur Backseat, Jean-Luc Mélenchon a déjà été invité sur Backseat. Au cours de cette saison, d'ailleurs. Tu passes trop de temps à tacler la télé pendant tes émissions pour ne pas être comparé. Je tacle pas la télé, moi. J'en parle pas de la télé, je la regarde pas. Quand est-ce que tu m'as entendu tacler la télé ? Et encore une fois, Backseat n'est pas une émission alternative. Backseat n'essaye pas de faire la leçon aux autres. Backseat n'essaye pas d'être mieux que... Moi, je ne dis pas à la télé, regardez, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais faire mieux que vous. Je m'en fous de la télé, ça m'intéresse pas. J'essaye pas de me comparer à la télé, j'essaye pas de faire différent, de faire mieux. J'essaye de faire la meilleure émission possible sur ma chaîne Twitch. Tu as déjà un squelette pour le prochain Backseat ou c'est en fonction des invités? On a déjà un squelette, on est en train de travailler dessus parce que c'est une émission en partenariat, du coup on la fait pas tout seul. Donc on bosse avec notre partenaire France Digital sur cette émission. On va essayer de vous mettre en avant, de vous présenter des innovations, des startups qui agissent pour le bien et qui ont de l'impact. Tu ne souhaites pas faire plus d'apparitions télévisées à l'avenir? J'en sais rien, si on m'invite, pourquoi pas? Après, j'ai pas grand-chose à gagner à aller à la télé. Hein. Tu peux nous expliquer pourquoi tu ne regardes pas la télé? Et parce que j'ai pas de télé chez moi. J'ai pas de téléviseur, j'ai pas, moi je sais, je suis un enfant d'internet, je regarde internet, je regarde Twitch, Instagram. Parce que c'est nul. Non, mais si ça se trouve, c'est très bien la télé, j'en sais rien. Je vous dis juste que moi, dans ma consommation personnelle, je ne regarde pas la télé. J'écoute pas non plus de podcast, par exemple. Je suis pas du tout un aficionados de podcast. J'ai pas le réflexe, j'ai pas de... Moi, j'écoute de la musique, j'écoute pas de... Enfin, tu vois, j'écoute pas de podcast. Donc pareil, j'essaye pas de donner des leçons aux gens qui font des podcasts en leur disant que c'est bien, que c'est nul, etc. Est-ce que tu respires de l'air ? Moi, j'écoute Backseat en podcast, mais tu as bien raison. Si ça te plaît en podcast, Backseat, très bien. La télé, c'est pratique pour la PS5 et Netflix. Moi, je regarde que Twitch sur ma télé. Sauf Thomas Legrand et Philippe Collin. Oui, t'as raison, Dart, j'avais oublié. C'est vrai que j'écoute les podcasts. Enfin, c'est pas des podcasts. Enfin, oui, si, c'est des émissions de France Inter. Celle de Thomas Legrand qui s'appelle Enquête de politique et les portraits de Philippe Collin qui fait des biographies. Il faut regarder Arte sur sa télé. Ben, moi, je regarde Arte sur YouTube. Mais c'est très bien de regarder Arte à la télé si vous préférez la télé. T'as passé une tête à C'est à vous, ça t'a pas justement donné un avis sur les émissions de télé? Non, j'ai pas eu une opinion générale sur la télévision, pas à cause de mon passage sur C'est à vous. C'est une très bonne émission, C'est à vous. Enfin, ils travaillent pour faire une émission. Après, elle vous plaît pas. En fait, je pense qu'en tant que consommateur de ton contenu, on se met à avoir un sentiment de supériorité, sûrement à tort, par rapport à ceux qui s'informent sur d'autres médias. Et l'instance de ton public sur cette question de la télé, l'insistance de ton public sur cette question de la télé, je pense, vient de l'envie de montrer au reste du monde à quel point il serait mieux informé en regardant ce que tu proposes. Eh ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mon contenu n'est pas une... comment dire ? C'est pas une démonstration de force face aux autres. C'est pas une alternative. J'essaye pas de remplacer qui que ce soit. J'essaye pas de remplacer la télé. J'essaye pas de remplacer les autres créateurs de contenu. Internet, c'est grand et il y a de la place pour tout le monde. Et j'ai pas de leçon à donner aux autres qui produisent des émissions. Chacun essaye de faire son émission, il se démerde. Il n'y a pas de concurrence d'usage en vrai. Tant que le contenu est propre, regardez ce que vous voulez. Oui, c'est ça. Tout le monde s'informe comme il le veut, je comprends pas trop le débat. Non, mais il n'y a pas de débat. Moi, hein. Bon, en tout cas, je ne défends pas une position, justement. Je suis en train de vous expliquer justement qu'il n'y a pas de débat. Que de mon point de vue à moi, je ne défends pas de position. Je n'ai pas la prétention de dire à la télé que ce qu'elle fait n'est pas bien. Enfin bref, quelle heure il est ? Il est 5h moins le quart. Bah dis donc, ça fait bizarre hein, de finir à 5h moins le quart la séance des questions au gouvernement. Je vais m'arrêter là, moi les amis. Je veux vous remercier d'avoir été là. Donc je vous rappelle que demain, on se retrouve probablement à 13h30 pour suivre ensemble la deuxième séance des questions au gouvernement après le Conseil des ministres. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir été là, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc demain pour la suite des questions au gouvernement. Merci d'avoir été là, à très bientôt. Ciao.